faut dire que c'est un bouquin que j'ai publié il y a plus de 10 ans. Et à chaque fois qu'il est republié, je modifie une partie de l'ouvrage. Donc, pour dire que l'éventail des travaux qui se développent dans le domaine de celui du sport est à mon avis un éventail assez évolutif. Je pense que si on comparait la première version du bouquin et la dernière, on voit ces changements. Bon, je ne le renouvelle pas d'un seul coup, hein, parce que c'est du boulot, mais j'enlève des parties, j'en remets, etc., au fur et à mesure que le temps passe. Alors, c'est un peu difficile de présenter les grandes lignes d'un domaine de recherche, parce qu'en fait, c'est à la fois un petit milieu. Je ne sais pas, quand on fait des colloques de sociologie ou d'histoire du sport, une centaine de personnes, c'est pas toujours les mêmes, on se retrouve, etc. On les connaît à peu près tous. Donc c'est à la fois un petit milieu, en même temps, je vois par exemple, du point de vue de la bibliographie, ça devient très très vite une littérature impossible à lire de manière intégrale. Donc il y a quand même un volume de production qui commence à devenir assez conséquent, surtout si on lit une langue étrangère. Enfin, moi je regarde les publications en anglais, je ne lis pas d'autres langues, mais je regarde le domaine anglais. Bon, ça, si on ajoute le français et l'anglais, là on a effectivement un domaine de publication qui comprend des centaines de références par an, quoi.
Et un peu comme le sport, vous diriez que c'est un champ de recherche qui s'institutionnalise aujourd'hui?
Il s'institutionnalise, oui, de toute façon. Hein, je pense que par spécialisation, dans le domaine scientifique, on voit apparaître donc le domaine du sport. Il y a des sociétés savantes. Nous, on a fondé une société de sociologie, il y a une société d'histoire. Il y a les anthropologues qui essayent de constituer des réseaux, etc. Il y a aussi des associations par sport. Par exemple, il y a les chercheurs en sport de montagne qui ont constitué un réseau, des choses comme ça. Je sais qu'il y a aussi plus ou moins un réseau des gens qui travaillent sur les sports de combat. Il y a un réseau de sociologues, pas uniquement un réseau de moniteurs ou de pratiquants, quoi. Parce que des réseaux de pratiquants, il y en a bien sûr dans tous les domaines. Hein. Mais disons des gens qui font de la sociologie ou de l'histoire des sports de combat. Donc je sais qu'il y a une forme d'institutionnalisation qui existe, il y a des revues. Donc nous, on a fondé et on a lancé une revue qui s'appelle Sciences sociales et sports. Le premier numéro est paru, difficilement, mais il est paru. Hein. Donc il y a un processus d'institutionnalisation. Ce qu'il y a, c'est qu'il a ce processus, il avait été amorcé une première fois, je ne sais plus trop quand, dans les années 80, je crois, et puis c'était retombé. Il y avait eu une première société de sociologie du sport qui avait existé, qui a disparu. On en a refondé une vers 2000, par là. De même, il y avait une ancienne société d'histoire qui a été fondée. Il y a eu une refondation, pareil, au début des années 2000. Donc, il y a institutionnalisation, mais c'est des tout petits trucs. C'est tout petit, quoi. Donc, ça peut disparaître assez vite. Par contre, je pense que ce qui a été un facteur déterminant, c'est l'institutionnalisation des STAPS, comme discipline universitaire, avec une section de CNU et tout ça. Alors ça a été un facteur déterminant, quoi. Parce qu'en France, c'est ce qui a véritablement assuré un vivier de chercheurs, avec des gens qui obtenaient des postes d'enseignants-chercheurs, donc de maîtres de conférences en STAPS, qui eux-mêmes, quand ils sont devenus profs, pouvaient encadrer des thésards, etc. Donc là, il y a eu un petit vivier de quelques dizaines de chercheurs, mais bon, quelques dizaines de chercheurs, c'est déjà ça, quoi. Ça, je pense qu'en France, ça a été un facteur tout à fait essentiel. On le voit quand on compare avec la Suisse, où il n'y a pas eu la même évolution. C'est-à-dire, bon, les gens qui s'occupent de sociologie du sport, ils sont 3 ou 4, et du coup, ils n'ont pas pu vraiment se professionnaliser, se spécialiser là-dedans. Ils ne le faisaient qu'à temps partiel, ils n'ont pas pu former des chercheurs, et d'une certaine manière, le thème de la sociologie du sport ne s'est pas vraiment installé de manière permanente avant les années 2000, quoi. Alors qu'en France, le truc s'est fait dans les années 80.
Et ce que vous expliquez, donc, ce que vous montrez bien dans le, ouais, dans le petit ouvrage, c'est que le sport, c'est un objet finalement qui a l'air très évident pour le sens commun, mais qui est en fait très compliqué à définir, qui est très difficile à saisir pour les sciences sociales, comme,
oui,
pour les autres d'ailleurs.
Bah, c'est-à-dire, c'est la différence qu'il y a, je pense, entre des objets empiriques, donc le sport, c'est une institution, etc., donc ça, ça existe, et puis, en fait, des objets construits par la sociologie, même par les sciences sociales. C'est-à-dire, je sais pas, les classes, les relations hommes-femmes, bon, qu'est-ce que c'est que la différence culturelle, des choses comme ça. Bon. C'est vrai que, en soi, le sport a pu exister depuis la fin du 19e siècle jusque dans les années 60, sans que ce soit véritablement un objet pour la sociologie. C'était une institution pourtant, hein. C'était déjà une institution, même si elle n'était pas très forte avant les années 60. C'est vrai que le sport, en tout cas en France, c'est pas une grosse institution, c'est pas un gros truc, quoi. Il y a quand même le Tour de France, il y a je sais pas, la Coupe du Monde de football, mais bon, il semble bien que quand on regarde ce que les sociologues faisaient dans les années 50, ou même au début des années 60, bon, le sport apparaît comme ça, de manière épisodique, je sais pas, dans les réflexions des sociologues de l'école de Francfort, bon, on voit le sport qui apparaît comme ça, ou dans une espèce de sociologie de la consommation de masse aux États-Unis, on a comme ça des petits bouts d'enquête où il y a des questions sur le sport. Mais il n'y a pas une sociologie du sport au vrai sens du terme avant les années 60-70. Donc je crois que c'est la différence qu'il peut y avoir entre un objet social, ou éventuellement une question sociale. Parce que autour du sport, il y avait déjà des questions qui se posaient dans la société. Est-ce que c'est des pratiques éducatives, est-ce que ce sont des pratiques vulgaires, ou est-ce que c'est un statut culturel, etc. Mais ça n'a pas été suffisant pour attirer vraiment des sociologues qui se posent la question, est-ce que je vais faire de la sociologie du sport avant les années 60.
Et tout à l'heure, justement, vous me parliez, ouais, d'associations de sociologues des sports, ouais, de montagne, etc. Donc c'est une forme de découpage, en fait. C'est qu'on, oui, considère qu'il y a une spécificité des sports de montagne. Et selon vous, vous avez choisi d'intituler votre repère sociologique du sport et sociologie au singulier, sport, ouais, au singulier.
Alors ça, c'est pas un choix scientifique.
D'accord.
C'est un choix éditorial. Non, c'est les directeurs de la collection qui m'ont imposé. Parce qu'effectivement, j'aurais eu tendance à mettre peut-être pas sociologie au pluriel, mais en tout cas sociologie des sports.
Des sports.
Voilà. Mais ils m'ont demandé de mettre sociologie du sport. Donc c'est pas un choix scientifique.
Mais c'est justement, et vous, quel découpage vous feriez éventuellement? Est-ce que ce sera un découpage disciplinaire? Pas forcément.
Ben ça dépend un peu ce qu'on a à présenter. Là en fait, cet ouvrage, c'est pas un manuel, c'est plutôt un panorama de ce qui se fait, des recherches et des publications. Voilà, c'est plutôt un panorama. C'est un peu la logique des repères chez La Découverte. Donc, quand on prend, je sais pas, sociologie de la famille, on lit le truc, on a à la fin une bibliographie sur les travaux sur la famille, et puis l'auteur vous explique au fond qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sociologue par rapport à l'objet famille. Donc moi j'ai fait un peu ça. Ce qui fait que c'est pas un bouquin qui consiste à présenter mes travaux, c'est un bouquin qui consiste à présenter les travaux qu'il y a dans le domaine. De façon à ce qu'un étudiant en sociologie qui se dise au bout de 2-3 ans, au fait, je vais faire de la socio sur quoi, et il achète dans cette collection, je sais pas quoi, sociologie de la prison, sociologie d'entreprise, sociologie de la famille, sociologie du sport, il regarde. Et puis, avec la présentation des directions de recherche qui existent dans chacun des domaines, et puis la bibliographie, il se dit, tiens, ça m'intéresse pas, il y a un truc à faire, il n'y a rien à faire. Bon, voilà. Je pense que c'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'aurais plutôt eu tendance à prendre sociologie au pluriel et sport au pluriel, parce qu'en fait, présenter les travaux qui existent dans le domaine, ça consiste à voir qu'il y a quand même différents types de sociologie qui se font, même si la sociologie de Bourdieu a été très dominante jusque dans les années 90, donc, même si c'est plutôt une sociologie des sports qui a dominé. Bon, après, sociologie des sports, le fait de mettre au pluriel les sports, ben, c'est parce que enfin, je pense qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre d'une sociologie de la culture, en fait, une sociologie de la culture sportive. C'est vrai qu'à ce moment-là, regarder quelle est l'espèce de construction culturelle à laquelle correspond une pratique sportive, une discipline sportive. C'est vrai que ça se présente très différemment selon qu'on est dans l'aïkido, ou qu'on est dans l'alpinisme, ou qu'on est dans l'athlétisme, des choses de ce type, quoi, ou football. Selon qu'on est dans le football ou l'aïkido. C'est quand même des constructions culturelles très différentes. Ne serait-ce parce que le football, c'est la culture anglaise, que l'aïkido, c'est la culture japonaise. Voilà, chose comme ça. Donc, voilà, j'aurais mis quand même le sport aussi peut-être au pluriel, parce que voilà, je pense que c'était d'abord là-dessus. Il y a quand même beaucoup de travaux qui se sont faits jusque dans les années 90, qui étaient essentiellement des travaux de sociologie de la culture. D'ailleurs, en fait, ce que Pociello a développé, et ce que j'ai aussi développé, parce que bon, moi je faisais une thèse chez Bourdieu, j'ai rejoint les gens des STAPS, en fait. Moi, j'étais pas prof de gym ni rien, mais j'ai rejoint les gens des STAPS dès le début de ma thèse. J'ai commencé une thèse en 70. Et je l'ai soutenu en 78. Donc j'ai été chez Bourdieu, j'ai suivi ses cours, j'ai été sous sa direction pendant toutes les années 70, qui était vraiment un moment crucial de l'histoire du labo de Bourdieu. C'est-à-dire que c'était plus les années 60, où ils étaient encore pas très connus, etc., où ils faisaient des grands travaux empiriques sur différentes choses. C'est le moment de l'élaboration de la théorie de la pratique, enfin des choses de ce type. Aussi des travaux sur. On commence à voir apparaître les notions de champ qui n'étaient pas tellement présentes avant. Et c'est avant la période des années 80 où il commence à devenir beaucoup plus célèbre à l'étranger, où les travaux sont traduits en anglais, etc. Donc, c'était le moment où le labo de Bourdieu s'appelait Laboratoire de sociologie, d'éducation et de la culture, qui était le titre, ou le sous-titre du Centre de sociologie européenne. Donc en fait un laboratoire de sociologie de l'éducation et de la culture. Et moi je faisais une thèse sur l'éducation physique, sur la construction de l'éducation physique. C'est comme ça que j'ai rejoint les STAPS d'ailleurs.
Et comment vous aviez choisi ce sujet-là?
J'ai choisi ce sujet, donc moi j'avais fait des études de socio entre 66 et 70, donc à cheval sur 68. Bon, j'avais lu puis dans les études à la Sorbonne, parce qu'il n'y avait qu'une seule université, c'était la Sorbonne, il n'y avait pas Paris 1, Paris 2, etc. J'avais lu des bouquins de Bourdieu, et j'avais eu comme assistant dans des TD, des gens qui étaient de chez Bourdieu, notamment, comment il s'appelle? Ça n'en revient pas maintenant. Celui qui a écrit sur Sochaux
et sur Michel Pialoux.
Pialoux. Voilà. Vous avez vu Pialoux comme chargé de TD. Et donc en 70, j'ai choisi un sujet de thèse qui n'était pas le même que le sujet de maîtrise. À l'époque, il n'y avait pas de DEA. Et finalement, j'avais choisi, après réflexion et en changeant de sujet, j'avais choisi un sujet sur comment le sport s'est construit comme institution, avec les tensions entre sport et éducation physique qui étaient très très fortes à l'époque. Et au départ, j'avais l'intention de faire quelque chose qui comprenait à la fois la genèse et des aspects de sociologie du sport contemporain. Et puis finalement, mon sujet, c'est... est devenu uniquement un sujet de sociologie historique, c'est-à-dire que j'ai pris la question de la fin du 18e siècle, tout le 19e, et le début du 20e, et je me suis rendu compte que ça suffisait, quoi. Le sport arrivait, mais j'avais la construction de l'éducation physique et des sports qui étaient ensemble, qui permettent, bon. Et donc je me suis arrêté à 1914.
Et à l'époque, vous aviez travaillé sur quel matériau?
Donc à l'époque, j'ai travaillé sur... Bon, d'abord, j'ai constitué une bibliographie de sources d'époque en travaillant en bibliothèque, en fait. Et puis, j'avais fait un petit peu de travail d'archives. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, les manuscrits de Mme de Genlis, j'avais été les voir au château de Chantilly. Bon, j'avais commencé à travailler aux archives nationales, mais aux archives nationales, il y avait peu de choses par rapport à ce qui m'intéressait. Il y avait un petit peu des choses aux archives historiques de l'armée. Mais il n'y avait quand même pas des masses de choses au point de vue archivistique. Par contre, il y avait des livres et des périodiques. Beaucoup. J'ai beaucoup travaillé à la Bibliothèque nationale.
D'accord.
Et à l'INRP. À l'époque, l'Institut de la recherche pédagogique était à Paris. Maintenant, il est parti à Lyon.
Oui.
Il y avait beaucoup de choses à l'INRP. C'était un truc très, très pratique, très...
Et ça, ça explique un petit peu votre orientation théorique, mais pourquoi l'objet éducation physique ou sport enfin...
Ben, l'idée, voilà, c'est, en fait, je voulais travailler sur, je voulais travailler sur les pratiques sportives, c'était un domaine qui me paraissait intéressant. J'avais un peu hésité entre travailler sur le jazz, qui est aussi un autre domaine qui m'intéressait.
Et Joe Barbaker qui était passé par là.
Voilà, mais finalement, j'avais, oui, qui n'était pas traduit encore. Mais je l'avais lu, enfin, j'en avais lu en partie en anglais. Mais bon, j'étais pas encore extrêmement branché sur la sociologie anglo-saxonne. Un petit peu quand même dans les études à Sorbonne, mais pas tant que ça. Par ailleurs, il y avait la domination du modèle marxiste hein, dans lequel j'ai formé. Donc, je lisais plutôt des traductions françaises d'ouvrages allemands. Enfin, le marxisme, c'est beaucoup la philosophie allemande, etc. Tous les néo-marxistes, Lukács, etc. Enfin, je lisais beaucoup des choses comme ça. Au cours de ma formation à la Sorbonne, c'était beaucoup là-dessus. Et comme je ne lis pas l'allemand, c'était des trucs que je disais en traduction. Mais non, ce qu'il y a, c'est que je voulais quand même faire quelque chose sur le sport, donc j'avais démarré là-dessus. Et l'idée qui me paraissait étrange, c'est curieux de dire une phrase comme ça, ce qui me paraissait étrange, c'était le fait qu'il existe une éducation physique. Voilà, c'est quelque chose qui me paraissait pas évident. Qu'au fond, on fasse... je pense que j'avais une conception très traditionnelle de l'éducation, hein, de l'enseignement secondaire. Et au fond, je faisais partie de ces gens qui, à la fin des années 60, début 70, trouvaient un peu étrange qu'on ait donné une place comme ça à l'éducation physique, qui était d'ailleurs très sportive dans les années 60, à la fin des années 60, qui était devenue éducation sportive. Quoi. Donc, voilà. Donc, je me disais, tiens, c'est marrant de voir comment on a donné une place à cette matière qui a une place marginale, hein, qui était dominée. Donc, j'avais préparé un projet plutôt, et Bourdieu, pour encadrer les thésards, était assisté de Boltanski et de Grignon. Et en fait, j'ai été suivi par les deux. J'ai été suivi par Grignon et par Boltanski. Donc Boltanski venait de sortir un bouquin qui s'appelait « Prime éducation et morale de classe », qui était sur l'éducation corporelle des tout-petits-enfants, la puériculture, tout ça. Bon, il y avait les travaux de début des années 70, il y a l'usage social du corps que Boltanski publie en 71, etc. Donc en fait, j'ai été pris en main avec ce projet. Bon, moi, j'avais orienté le truc comme ça vers qu'est-ce que c'est qu'une éducation physique et comment se construit l'éducation physique. Bon, donc comme c'était un laboratoire de sociologie de l'éducation, j'ai été pris, mon projet a été pris, quoi. Bon. Et puis après, il y a eu la dynamique avec Boltanski, tout ça, le truc a été boosté. Bon, Grignon publiait, est en train de terminer son bouquin sur l'enseignement technique, l'ordre des choses. Bon. Et lui aussi, ça l'intéressait beaucoup de voir la genèse d'une discipline dominée comme l'éducation physique, etc. Donc, le truc a tout de suite très très bien pris. Quoi. Par contre, là où j'ai plus de difficultés, c'est que je me suis orienté très vite vers de l'histoire sociale. Et là, dans le labo de Bourdieu, c'était pas si évident que ça, que l'histoire sociale. Enfin, il y avait des gens qui faisaient l'histoire, mais pas tant que ça. Je me suis plutôt rapproché de Chamboredon, qui à l'époque faisait partie du labo. Et même à une époque, il m'avait conseillé, Bourdieu, Chamboredon, d'aller suivre un séminaire à l'École normale supérieure, où là, il y avait un séminaire d'histoire sociale hein, du 19e siècle. Et dans laquelle j'ai entendu pour la première fois Christophe Charles ou des gens comme ça. Bon. Et j'ai trouvé des gens qui faisaient l'histoire sociale du 19e siècle. Parce que, alors que chez Bourdieu, quand même, les gens étaient très sociaux, contemporains. Quoi. Ouais. Et j'étais un peu, moi, dans mes. Alors, en plus, j'étais pas un historien de formation, donc j'étais dans le 19e siècle. Je ramais un peu quand même. Hein, et je manquais un peu de conseils, de
méthodes.
Ouais. Ben la méthode, encore, je dirais que ça se trouve, parce que la méthode de l'historien, bon, on lit les bouquins d'historiens, et puis, si vous dire, c'est pas compliqué la méthodologie en histoire. C'est plutôt une question d'esprit de finesse, arriver à comprendre ce que c'est que de se mettre dans
la.
Oui, de se mettre dans la pensée d'une époque, de croiser des sources pour voir si les choses, si ça se confirme, si c'est une chose comme ça. Mais c'est pas techniquement, c'est pas des choses très compliquées, quoi. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir où aller piocher dans des archives, des choses comme ça. C'est de savoir découvrir des sources. Ça, c'est plus difficile. Là, je peux dire, je suis pas devenu très fort. Mais il y a eu assez vite des gens qui étaient des historiens, qui se sont occupés de ce sport-là. Notamment un cas, bon, qui est une génération antérieure, et je crois qu'il a disparu, je ne sais pas ce qu'il est devenu en tout cas. Qui a fait une thèse d'histoire sur la préparation militaire à l'éducation physique, il s'appelle Spivak, et qui est un truc fondamental, parce que c'est un gars qui a étudié donc la... la préparation militaire, l'éducation physique et le sport entre 1870 et 1939. Et en fait, c'est un travail d'historien. C'est-à-dire, c'est une thèse qui fait 1500 pages, qui n'a pas été publiée, qui se trouve au service des thèses à la bibliothèque de la Sorbonne. Bon. Et là, voilà, quand on lit ça, donc moi je suis arrivé à me procurer, à me faire des photocopies de deux tomes sur les trois. Et là, alors effectivement, on voit que le gars, il a été par le service historique des armées de terre. Bon, il identifie déjà les cartons qui sont utiles et machin. Donc, voilà. Quand on n'est pas un vrai historien, on suit un peu le sillage de gens qui sont plus historiens que soi. Quoi. Ouais. Donc là, j'ai travaillé là-dessus pendant les années 70, quoi, jusqu'à finir la thèse. Bon, et après, j'ai un peu quitté le domaine parce que j'étais hors statut pendant 10 ans. Donc, une thèse qui dure 8 ans, puis ensuite hors statut pendant 10 ans. Ça a emmené, disons, assez loin. Et j'ai retrouvé les STAPS, donc en 88. Et là, depuis, je fais une carrière dans les STAPS.
Pour en revenir justement à toujours ce champ un peu de la sociologie du sport en France, qui effectivement est un petit peu comme toute la sociologie, peut-être un petit peu trop nationale, ça c'est un sujet en soi. Ouais. Mais là, ce dont j'avais l'impression, c'était aussi qu'il y avait une assez forte emprise encore, enfin orientation thématique qui a été donnée par Pierre Bourdieu, par les travaux de Bourdieu. Ouais. Et c'est vrai qu'il a, dans certains de ses textes, dans Raison pratique, dans Question de sociologie, il a des textes justement qui donnent un programme de sociologie du sport qu'il a paradoxalement pas mené lui-même, alors qu'effectivement, comme vous dites, le lien avec l'éducation, avec la culture, à travers la notion d'habitus, d'exis, etc., ça paraît assez évident. Donc, comment vous expliquez que Bourdieu n'est pas lui-même prolongé ou pas lui-même mis en application ce programme-là?
Je pense que c'est pas. Enfin, lui, c'était pas son problème. En fait, Bourdieu, il s'est beaucoup intéressé aux pratiques sportives, je dirais, dans la deuxième moitié des années 70, quand il était en train d'écrire La Distinction. Et à ce moment-là, il est entré en contact avec Pociello, et il a aidé Pociello à en fait, il a contribué, Bourdieu, à ce que dans un des appels d'offres d'un organisme de recherche qui existait à l'époque, et qui était lié au plan, et qui s'appelait le CORDES, il a aidé à ce que dans le CORDES, s'il y avait une partie de l'appel d'offres qui mentionnait le sport, ou s'il a contribuer en influençant plus ou moins les juges à ce que un contrat de recherche sur le sport soit accordé donc à Pociello. Il y a toute une galaxie de tout un ensemble de chercheurs qui étaient autour de lui, quoi. Donc ça, c'était en 78, je crois, en 79. Donc moi, j'avais fini ma thèse, je sais que j'ai travaillé avec lui, et ça a donné le bouquin Sport et Société qui est paru en 81. Mais Bourdieu lui-même, il n'était pas foncièrement intéressé par les questions posées par le sport.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression avec la théorie de l'habitus que finalement c'est dans le corps qu'on voit le plus. C'est un peu la finalité. Moi, j'aurais pu penser que.
Mais en même temps, c'est dans le corps, mais en même temps, au fond, l'habitus, il se manifeste par des expressions qui sont des expressions multiformes. Et à la mesure où le sport, c'est un domaine dans lequel le corps est explicitement mis en œuvre, cultivé, etc., c'est pas vraiment ce qui intéresse le sociologue de l'habitus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les usages les plus ordinaires et les plus variés du corps et les manifestations de disposition à travers les comportements les plus routinisés, les moins conscients, les moins stratégiques, à la limite, éventuellement aussi dans des usages stratégiques du corps. Donc, c'est effectivement plutôt les façons de se tenir, les façons d'utiliser le corps, et puis le langage, qui sont les domaines dans lesquels la manifestation de l'habitus est le fond le plus traqué par le sociologue. Mais c'est vrai que quand on est dans le domaine du sport, on est dans un sous-ensemble des registres à travers lesquels les dispositions se manifestent corporellement, et on est dans un sous-ensemble dans lequel les questions corporelles sont faussement évidentes. En fait, le domaine des activités physiques et des sports, contrairement à ce que disent beaucoup de sociologues du sport, je ne pense pas que le sport soit un laboratoire particulièrement privilégié pour observer les manifestations d'habitus, contrairement à ce qu'on dit. Et d'ailleurs, un des trucs qui est frappant, c'est que des vrais programmes de recherche sur l'habitus, moi je me souviens avoir une discussion il y a 25 ans avec un des profs des STAPS, qui est donc un gars qui connaît bien un certain nombre d'activités sportives, donc qui est quelqu'un un peu du milieu, etc. Bon. Et on discutait il y a 25 ans tout ça sur... l'idée c'était... on pourrait voir comment des gens pratiquent le ski. Donc c'était à l'époque, hein, donc il faut se remémorer plutôt les années 70. Donc c'est plutôt il y a 30 ans. Et l'idée c'était, on pourrait regarder comment, en filmant vraiment de manière très précise la façon dont les gens font du ski, est-ce qu'on pourrait distinguer uniquement à travers donc, l'enregistrement des manifestations motrices, en fait, des habitus, est-ce qu'on pourrait distinguer, donc deviner, ceux qui sont nés en montagne et qui sont des fils de montagnards et ceux qui sont des urbains. Voilà. Bon. Donc ça aurait été un beau projet. Et ça, c'était un projet d'étude dans lequel on aurait effectivement essayé de voir ce qu'aujourd'hui des scientifiques des STAPS appellent les signatures motrices de l'habitus. Bon, voilà. Mais ça s'est jamais fait. C'est un projet qui s'est jamais fait. C'est-à-dire, bon, ça s'est jamais fait pour multiples raisons, mais ça s'est pas fait. Et d'une certaine façon, c'est autre chose qui a été étudié. Par exemple, lorsqu'on voit ce qui est d'une certaine manière dit de façon explicite, mais peut-être pas complètement explicité tout de même, ce qui est fait dans les travaux de Pocielo. Ce qui s'est fait, ça a consisté à montrer que les dispositions... Enfin, c'est même pas des dispositions, en fait. C'est plutôt des types de savoir-faire et des types de culture très différents peuvent être impliqués dans des sports informationnels comme par exemple le vol libre et des sports énergétiques comme la course à pied de longue distance. Bon. Mais... d'une certaine manière, cette description est assez ambiguë parce que c'est pas la description des habitus, c'est à la fois la description au fond des institutions, des disciplines instituées, et ensuite des formes des types de dispositions attendues par des disciplines aussi différentes que le vol libre et la course de longue distance. Donc c'est vrai que dans ces deux types de disciplines s'investissent, en tout cas de manière statistique, des types de dispositions qui sont différentes. De même que, par exemple, dans les sports d'affrontement direct, par rapport à des sports dans lesquels il y a un évitement, on évite le contact frontal. Bon. Donc c'est vrai que si on distingue des types de disciplines comme ça, on peut distinguer ce qui est derrière, c'est-à-dire en fait des publics qui sont dotés de dispositions différentes. Et au fond, ce n'est pas une étude directe de l'habitus. C'est plutôt des formes institutionnalisées, c'est bon, quand on regarde comment le capital culturel est à la fois dans les acteurs, dans les institutions, enfin, comment il est objectivé à la fois dans les dispositions des agents, mais aussi dans les institutions, en fait, on regarde plutôt comment des formes de capital sportif, des formes spécifiques de capital sportif sont objectivées dans des institutions comme les sports de combat d'un côté et la course à pied de l'autre, par exemple. Voilà. Mais on n'est pas sur des études d'habitus, véritablement. Et en fait, les analyses d'habitus, les vraies enquêtes sociologiques sur les habitus, ne sont apparues que depuis la fin des années 90, avec des gens comme Vacan, avec des chercheurs de Nantes, comme Papin, etc. Bon. Il y a des gens qui ont véritablement... bon, je pense que c'est plus caractéristique chez Vacan, parce que Vacan, il fait des observations. Et quand même, l'habitus, le mieux, c'est les observations. Mais c'est vrai que par interview, on peut aussi obtenir des choses. Mais Pocello, c'est plutôt une analyse de champ, de différenciation de champ, et puis par rapport à ce que peut-être dans le champ sportif, la notion de capital sportif, la différenciation des formes de capital sportif qu'on peut donc accumuler et qu'on peut utiliser dans des sous-espaces de l'espace sportif que sont donc les disciplines d'affrontement, de l'autre les disciplines où il y a l'invitement, d'un côté les disciplines sont un peu énergétiques, de l'autre les disciplines sont très énergétiques. Bon, Pocello, il a quand même déblayé le terrain, hein, il a fait beaucoup de choses, mais c'est pas des enquêtes sur l'habitus à proprement parler.
D'accord. Justement, ça m'amène à une autre question que je voulais vous poser, à laquelle vous avez déjà répondu un peu partiellement. Ouais. C'est est-ce que parfois, et les sociologues eux-mêmes tombent peut-être dans cet écueil, est-ce qu'on ne demande pas parfois trop au sport? Je pense notamment au rapprochement qu'on fait souvent à l'idée que dans le sport, il y aurait ces valeurs de compétition, etc. Et oh, ça tombe bien, ça tombe avec ce qu'on appelle le modèle néolibéral, l'organisation de notre société. Est-ce que finalement, l'analogie n'est pas un petit peu trop rapide, souvent, d'après vous?
Je pense que c'est de toute façon un problème qui se pose pour toutes les, disons les analyses sociologiques dans lesquelles on fait des comparaisons entre champs ou entre institutions. C'est-à-dire, c'est vrai que si on compare le champ économique et le champ sportif, on est dans une démarche comparative. Donc la démarche comparative, bon, elle peut... Très vite, souvent, quand on fait des comparaisons entre deux choses, on peut comme ça capter des analogies assez vite et puis dire bon, voilà, il y a des analogies, etc. Bon. Alors que si on va plus loin, on se rend compte que les choses sont plus compliquées. Par exemple, le fait que si on regarde le monde sportif, parce que le monde sportif il a beaucoup changé depuis les années 80, notamment depuis que les institutions sportives, les organisations sportives qui tenaient un ensemble, qui maintenaient un ensemble de normes amateurs, ont abandonné les codes de l'amateurisme. Donc, tout le mouvement olympique, et puis en fait tous les sports qui étaient amateurs et qui ont abandonné l'obligation d'amateurisme. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus de sport amateur aujourd'hui, au vrai sens du terme. En tout cas, il n'y en a pas qui obligent à l'amateurisme. Mmh. Mais si on regarde l'espace des sports avant cette transformation, donc en fait jusque dans les années 70, on avait une grosse partie de l'univers sportif qui était composée de gens qui avaient une éthique amateur. Une éthique amateur qui se traduisait plus ou moins dans leurs actes. Bon, peu importe, c'est pas la question. Mais en tout cas, les gens avaient une éthique amateur. Bon, on était dans un univers qui était un univers de dénégation de l'économie complète. Alors, à la fois, les gens se préparaient et orientaient leur activité en direction d'une compétition sportive. En même temps, ils organisaient les clubs, par exemple, ou même des sélections, choses comme ça, de manière très peu compétitive, avec des modes de gestion qui étaient des modes paternalistes, avec des modes d'organisation qui consistaient à créer des associations, des amicales, des ententes, c'est-à-dire tout sauf la mise en compétition des acteurs, avec des stratégies qui n'avaient aucun rapport avec une analyse coût-bénéfice. Donc, c'était absolument pas des acteurs libéraux, pas du tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'univers du sport, aussi bien les clubs, par exemple les clubs de foot ou des choses comme ça, étaient remplis de patrons d'entreprises, étaient remplis de cadres d'entreprises. La pratique sportive est quand même beaucoup recrutée dans la bourgeoisie, dans les classes moyennes, régulièrement. Mais avec des gens qui, outre le fait qu'ils avaient un statut de cadre, d'ingénieur, de commerciaux, etc. Donc, outre cette caractéristique sociale, et peut-être qu'ils étaient de droite aussi, politiquement, en fait, n'étaient pas libéraux. Ils étaient, je sais pas, catholiques, ils étaient solidaristes, ils étaient, peut-être certains socialistes, je ne sais rien. Et en fait, ils étaient totalement... leur perception, leur catégorie de jugement, etc., étaient totalement structurées par des univers culturels absolument différents de ceux du libéralisme. L'univers de l'entreprise, jusqu'en les 60-70, il est en partie libéral. Il y avait des patrons qui étaient libéraux, je sais pas, Peugeot, machin, etc. Il y avait aussi des patrons qui étaient étatistes, à la manière des gaullistes, etc. Des types qui étaient grandes entreprises, qui étaient catholiques, et ces trucs, c'est très très compliqué. Donc, l'assimilation entre l'univers du sport, l'univers des entreprises, et l'univers du libéralisme, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, quoi. Et c'est vrai qu'il y a d'autres écrans idéologiques que l'écran libéral pendant longtemps. Après, depuis les années 80, peut-être que les choses, la balance des forces penche plus du côté des libéraux. Mais bon, c'est quand même une histoire très compliquée. Très très compliquée. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui établissent des acteurs, des agents eux-mêmes qui font le lien direct entre le libéralisme et le sport. Je sais pas, le président de l'OL, l'Olympique Lyonnais, voilà, c'est à la fois tout sport et tout libéralisme. Tout libéralisme au sens de...
Non, ou des analyses aussi critiques telles que celles de Jean-Marie Brôme du courant de la théorie critique du sport, qui vont justement imputer au sport le fait de véhiculer des valeurs de compétition,
alors ça,
de
c'est
violence.
Autre chose. Ça c'est un peu autre chose, parce qu'en même temps...
Oui c'est ça, non, je suis d'accord avec vous, il y a une petite différence entre le discours de sens commun et ces analyses-là.
Moi les analyses que je pense, c'est celle de Renberg. Et en même temps, Renberg c'est un mec très, très astucieux, c'est intelligent, mais... C'est vrai qu'il a publié, donc c'était, je crois, la fin des années 80, c'était en fait un recueil d'articles, Le culte de la performance. C'était un recueil d'articles dans lequel il y a quelques articles, quelques chapitres, pas beaucoup, mais deux, trois chapitres dans lesquels il montre, donc, fin des années 80, au fond, ce qu'il appelle une fusion des valeurs de l'entreprise et des valeurs du sport. Donc là, lui, il soutient, on est une espèce de position de sociologue quand même, l'idée que, il y a vraiment à la fois une homologie et puis des mécanismes de fusion, qui peuvent se traduire dans quelques endroits où on voit des coachs d'entreprise, machin, des trucs, une espèce de sous-produit. C'est plutôt à ça, je pensais, parce qu'autrement, la démarche de Brôme est un peu différente. Bon, on a quand même de bonnes raisons, et d'une certaine manière, je suis assez proche de Brôme. On a de bonnes raisons dans l'histoire culturelle des sports. Par exemple, quand on étudie de manière assez détaillée les écrits de Pierre de Coubertin, on a de bonnes raisons pour connecter au moins une des conceptions du sport. Ce n'est pas l'ensemble du champ sportif. C'est dans le champ sportif un pôle ou un pôle du champ ou un sous-ensemble du champ. On peut dire que dans le champ sportif, il y a des promoteurs, des organisateurs, donc des gens qui ont un rôle structurant du champ sportif au plan historique, qui ont été véritablement des esprits libéraux au sens du libéralisme de la fin du 19e. C'est-à-dire des gens qui étaient proches de Sciences Po, qui étaient proches de la philosophie de Le Play, mais Le Play finalement sans trop ajouter le côté social et machin comme ça, qui étaient en fait des libéraux au sens de ce qu'il y a à la fin du 19e, qui étaient des, pour le libre-échange commercial, qui étaient des choses de ce type. Quoi. Voilà. Et là, bon, il y a quand même des extraits de textes de Coubertin qui montrent une espèce d'homologie et puis une affinité quoi, entre l'idée par exemple que Coubertin déclare moins il y aura de règlements en sport et mieux ça vaudra. Voilà. Donc le côté libéral-libertarien, le côté la liberté avant tout, plus que l'égalité ou le lien social. D'abord la liberté de faire, la liberté d'organiser, etc. Avec le minimum de contraintes, surtout pas l'État. Voilà. Donc ça c'est vraiment, il y a vraiment des liens. Et d'une certaine manière, là, je pense que Brome, il n'a pas tellement tort hein, dans ce sens-là. Alors ce qu'il y a, c'est que ça n'est pas vrai du champ sportif dans son ensemble. Et en particulier dans le champ sportif, on peut observer la montée, alors ça moi j'ai travaillé là-dessus, la montée de. Bon, au fond, c'est une autre chose, mais donc, la montée d'un pôle organisateur du sport qui est. Donc ce sont des gens qui sont responsables d'associations, qui sont responsables de fédérations, donc qui sont normalement dans des groupements de droit privé relevant de la loi de l'association de 1901. On est autonome, on s'organise nous-mêmes, l'association, c'est l'autonomie même, c'est la liberté, voilà, c'est une des formes de liberté politique. Et en fait, on voit les dirigeants d'associations et de fédérations aller chercher le soutien de l'État, la reconnaissance de l'État, et des dirigeants qui se proposent d'organiser le sport en lui donnant des cadres d'État, avec des formes d'obligation d'État, des reconnaissances juridiques que l'État apporte, etc. Et finalement, entrant dans le cadre de pensée de l'État, dès les années 30, devenant des soutiens du régime de Vichy dans les années 40, approuvant les circulaires de 1945, l'État organise le sport en France, délègue ses pouvoirs aux fédérations, etc. Donc, des gens qui sont quand même de droite. Bon, il y a aussi les communistes, mais des gens de droite. Donc, on voit bien que le champ sportif, à ce moment-là, même si dans le champ sportif, il y a un courant libéral qui cultive des affinités avec le sens de la compétition sportive, il y a aussi des courants qui ne sont pas du tout libéraux, qui sont étatistes, etc. Et il n'y a pas eu, on va dire, il y a eu des affinités extraordinaires entre tous les régimes totalitaires et le sport. Bon. Tous, ils se sont tous arrangés avec le sport, ils ont tous fait la promotion, ils l'ont organisé, ils l'ont noyauté, etc. Donc, on voit bien que c'est un espace qui peut s'institutionnaliser dans des directions très variables. Et il n'y a pas d'essence. Enfin, moi, je suis un sociologue qui me dit qu'il n'y a pas d'essence du sport. Et il y a très peu de contraintes propres au sport. Quand on regarde ce que c'est que le noyau. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est rien du tout non plus. C'est-à-dire, le sport n'est pas uniquement fait par l'histoire. Il y a quelque chose qui est un tout petit ensemble de traits spécifiques au sport. Mais je veux dire, cet ensemble de traits spécifiques qui est autour de la compétition, etc., d'un ensemble de règles qui standardisent les conditions dans lesquelles la compétition s'organise, ce que des juristes ont très très bien, à mon avis, cerné, mieux que les sociologues, bon, c'est très peu de choses. Et ensuite, quand c'est approprié par des groupes, par des ensembles de groupes qui sont eux-mêmes dans des formations sociales, historiques, etc., ça peut devenir tout ce qu'on veut. Quoi. Ça va depuis le petit run compétitif, les gens qui se tirent la bourre en planche à voile dans les années 70, avec une absence d'institutionnalisation complète. Un libertarisme californien, etc., jusqu'aux spartakiades organisées dans le cadre de l'International Rouge du Sport en 1930, avec tout a été déterminé, y compris celui qui va gagner, le nom du mec qui va gagner la compétition, etc. Bon, voilà. Ou même d'ailleurs le rallye Paris-Dakar, où l'équipe commerciale de Peugeot décide par rapport aux deux chauffeurs qui sont tous les deux en tête de la compétition, lequel des deux va gagner parce que c'est mieux pour le plan marketing, etc. Donc je veux dire, bon, c'est voilà. Et ça, je pense que c'est vrai de toutes les institutions et de tous les champs. Je veux dire, bon, à une institution scolaire, ça peut aller depuis la société sans école, la Illich, jusqu'à une école militaire, Saint-Cyr, Couette-Quidan.
Et ça, justement, ça m'amène un petit peu à faire plus ou moins la transition vers la deuxième partie de l'entretien, que je voulais faire la relation entre le sport et le champ politique. Ouais. Parce que ça, c'est un des axes de vos travaux que je trouve d'ailleurs important. Ouais. Et notamment, donc, vous avez écrit un article dans Politique il y a quelques années maintenant où vous montrez bien la genèse historique un peu de cette image apolitique du sport. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cet apolitisme, cette neutralité du sport reste encore dans les valeurs de l'olympisme, vaille que vaille.
Oui.
Comment vous expliquez cette persistance justement alors même qu'on voit, enfin on a l'impression de sentir mais pas de voir justement quels sont les enjeux derrière cette compétition sportive. Alors,
ce qu'il y a, c'est que bon, en fait, moi je travaille, bon, j'écris depuis 15 ans un bouquin, j'ose plus trop dire que je le fais parce que ça devient un peu l'arlésienne et puis il va falloir que je me dépêche parce que je suis quand même en fin de carrière, mais j'écris un livre qui consiste à voir comment un champ se constitue. Et en fait, comment le champ sportif se constitue. Donc, c'est en fait une analyse qui part de des dernières années du 19e siècle et qui va jusqu'aux années 60-70 et qui consiste à voir comment la genèse d'un champ, puis sa constitution et des poussées d'autonomisation qui ne sont pas sans recul, sans difficulté, mais en tout cas qui permettent, disons, au champ sportif de devenir quelque chose d'assez constitué et avec quand même un degré d'autonomie quand même assez prononcé au tournant des années 60-70, même si l'État gaulliste met un peu sa main sur les questions sportives, etc. Donc ça c'est un truc que j'écris depuis des années. Bon, le projet est pas mal avancé, j'ai sorti plein d'articles là-dessus. En fait, tout un ensemble d'articles sont un peu des parties du livre, sont un peu des chapitres. Donc en fait, la question qui se pose, donc la question qui se pose, c'est de comprendre, c'est de montrer, bon, d'une part, c'est de montrer que le sport, enfin l'ensemble des activités physiques et sportives forment un champ, et de montrer comment, à travers quel mécanisme, ce champ acquiert un peu d'autonomie. Un peu, parce qu'en fait c'est pas un champ qui a une grande autonomie, c'est pas le champ scientifique, etc. Bon. Mais il acquiert un peu d'autonomie. Donc c'est dans ce cadre-là que j'essaye de comprendre, au fond, un ensemble de prises de position au sein du champ sportif, et que notamment donc il y a des états d'autonomisation, il y a la cristallisation du champ fin 19e, début 20e siècle. Avec un développement des pratiques qui va conduire jusque vers 1930, donc enfin, c'est le premier tiers du 20e siècle, disons. Ensuite, il y a une deuxième étape, au cours de laquelle, au fond, le champ a déjà une délimitation et une base organisationnelle. Et, en fait, quand même un certain degré d'autonomie qui va de 1930 jusqu'au début des années 60. Et là, je regarde donc comment fonctionne ce champ entre 1930 et 1960. Alors, ce qui est clair, c'est que, et ça c'est pour développer le modèle d'analyse du champ, dans ce champ, il y a deux pôles opposés. Il y a un pôle dans lequel on affirme le plus possible l'autonomie des affaires sportives, et il y a un pôle, au contraire, dans lequel on réfère constamment le sport à des logiques externes, à des finalités externes, par exemple le sport pour l'éducation des catholiques, le sport pour l'éducation ouvrière, le sport pour la préparation à la lutte pour la patrie, etc. Donc en fait, on observe à un moment donné, au sein d'un espace, des gens qui affirment l'autonomie du sport et des gens qui, au fond, ne cherchent pas à l'affirmer et qui, au contraire, cherchent à conserver une sorte de lien à des logiques externes qui donnent du sens au sport, pour eux en tout cas. Voilà. Pour eux, le sport n'a du sens que s'il est lié à une éducation chrétienne, à une préparation à la lutte de classe, etc. Donc, de ce côté-là, on a le sport catholique, le sport ouvrier, etc. De l'autre côté, on a les fédérations spécialisées, la fédération de foot, la fédération d'athlétisme, etc., dans lesquelles les gens disent, voilà, bon, ben, nous, on fait du foot, mais fait, on en fait parce que voilà, faire du foot, ça nous fait plaisir. Un beau match, il n'y a rien de mieux. Voilà. Et puis on passe du temps pour devenir fort. Et puis quand on parle de foot, on veut parler que de foot. On veut se retrouver avec des gens avec lesquels on parle de foot. On veut pas savoir s'ils sont communistes ou pas, on s'en fout. On fait du foot avec eux. Et puis dehors, ils sont ce qu'ils veulent. Bon. Donc on a bien au même moment des gens qui affirment l'autonomie du sport et des gens qui la dénient. Bon, voilà. Alors, tant que. Alors au fond, il y a ça. Donc ça, c'est la dénégation des implications politiques du sport. Et par ailleurs, il y a l'amateurisme, qui est une façon de dénier les enjeux économiques du sport. C'est une façon de dire, voilà, bon, ça me coûte de l'argent faire du sport, mais je m'en fous, c'est pas ça qui compte. Je le fais parce que j'aime ça, et puis voilà, j'en fais autant que je l'aime. Et pour autant que je l'aime, et puis ça me coûtera. Je veux pas gagner d'argent, ça m'intéresse pas. Voilà, bon. Donc il y a bien des formes de dénégation de la politique et de l'économie qui sont des formes réelles, pratiques, d'affirmation d'autonomie du sport. Donc moi, ce que je regarde, j'ai pas de point de vue. Pour moi, le sport, j'affirme pas comme Brome, ou j'affirme pas comme ce que font certains historiens du sport, qui vous font un ouvrage de 500 pages sur le football, dans lequel ils vous racontent l'histoire du football. Et vous vous rendez compte que de la première à la dernière page, il n'y a pas eu un mot sur le contexte social, il n'y a pas eu un mot sur la profession des footballeurs, il n'y a pas eu un mot sur le fait que, par exemple, Jules Rimet signe un article en 1940 dans l'Auto, dans lequel il explique qu'il est prêt à renoncer à l'autonomie des fédérations et que si l'État était prêt à organiser le sport et qu'il était prêt à nommer un président de fédération pour le football, il serait d'accord pour être ce président et pour mener au nom d'un organe d'État du sport, une politique pour le sport, c'est-à-dire qu'il prépare le terrain pour la politique de Vichy, l'article 40. Donc voilà, donc il y a des gens qui peuvent écrire une histoire du football sans dire un mot. Hein, deux, donc ces gens qui ces historiens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils lisent des revues de football qui elles-mêmes sont conçues par des gens qui pense le football de manière autonome. Donc, il ne parle que de football en écartant, parce qu'il faut bien écarter les choses, hein, pour dire, là, je sais pas, il y a tel footballeur, il est pauvre, et puis il est plus sélectionné, qu'est-ce qu'il devient? On n'en parle pas, non? Ou on va mener une politique de détection, elle coûte quelque chose à la fédération, mais on va pas dire si on a consacré de l'argent pour la politique de détection, sur quoi on a fait des économies à la place. Bon, donc, on a des historiens qui vont parler de l'histoire du football pendant 100 ans, en ayant fait écarté et repris un découpage qui est un découpage de ceux qui pensent la pratique comme étant autonome, et qui vont faire une histoire du football comme pratique autonome. Donc d'un côté, il y a Brome qui va dire le football, c'est que de la politique. Donc, et moi, j'ai des notations, il y a un petit extrait disant le sport n'a pas d'histoire autonome, entre guillemets. Voilà. Donc, l'autonomie zéro. De l'autre côté, des gens qui disent autonomie 100%. C'est un univers qui s'est... Ah, ça veut dire qu'il y a du football. C'est une bulle qui est là, au-dessus, comme ça, de l'histoire, et puis qui se développe. Donc, je parle de l'histoire de l'athlétisme. Il y avait le 100 mètres, on le faisait à telle vitesse en 1900, et en 1980, on le fait à telle vitesse. Bon, voilà. Donc, moi je travaille pas comme ça, ni d'un côté ni de l'autre. Je n'ai pas de position sur le degré d'autonomie du champ sportif. Je dis, c'est une variable, et ça fait l'objet d'une enquête empirique. Et j'essaye de comprendre, et j'essaye de le mesurer, parce que c'est pas non plus très facile, hein, de la tester, de voir bon, quels sont les groupes qui défendent au fond une conception autonome de la pratique sportive, ceux qui défendent une conception liée à des intérêts sociaux, comment les uns et les autres entretiennent des relations entre eux, et comment ça fait un champ. Parce que ça fait un champ, en fait. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors après, ce que j'ai souligné, c'est le fait que chacune de ces positions, notamment les positions extrêmes, d'ailleurs d'un côté le sport ouvrier, de l'autre côté le sport technique, le sport complètement autonome, quoi, hein, la technique du foot. Bon.
ce qu'on peut montrer en tant que sociologue, c'est que à la fois les gens construisent des positions totalement hétéronomes ou totalement autonomes, mais en même temps, dans leur pratique et dans leur histoire, il y a des moments où leur position est mise en danger, est mise en difficulté. Bon. Et donc à ce moment-là, on peut regarder comment, par exemple, les gens qui, au fond, se disent apolitiques, en fait, remplissent des politiques, remplissent des fonctions politiques. Et comment leur apolitisme sert dans l'espace politique. Voilà, donc moi je me suis spécialement intéressé à ça, mais il y a un autre chercheur qui s'appelle André Gounod, qui lui travaille sur le sport communiste, et qui lui, au fond, montre aussi comment, finalement, un sport qui se dit totalement politisé, quand, d'une certaine manière, il remplit des fonctions culturelles par rapport à la classe ouvrière, par rapport, etc., qui sont des fonctions qui excèdent en fait les engagements politiques et qui sont des fonctions d'un autre type. Voilà.
Et j'ai perdu ma question, excusez-moi. Ouais. Ça va me revenir. Par rapport, oui, c'est justement, donc c'est toujours cette autonomisation du sport dont vous parlez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, paradoxalement, que, enfin, donc c'est un mouvement sur lequel vous insistez beaucoup dans votre cadre, mais en même temps, on a l'impression, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que depuis les années 80, notamment, il n'y aurait pas cette autonomisation, ce serait pas inversé, c'est-à-dire que le champ sportif, finalement, serait devenu un espace qui serait au service d'intérêts qui seraient mercantiles, où le rôle du spectacle sportif semble, enfin, servir des intérêts économiques croissants, de même que politiquement, on a, enfin, une des questions que je me pose, moi, dans mon travail, c'est vraiment, est-ce que c'est pas d'abord une question d'affichage et un instrument de communication? On voit que la communication prend un poids de plus en plus important dans le champ politique. Est-ce que le sport, c'est pas l'instrument parfait de ce point de vue-là?
Alors, bon, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, par rapport à ce que je disais, bien qu'il y ait un pôle plus autonome et un pôle plus hétéronome, on est quand même amené. Alors, c'est pas la partie du travail la plus solide. Enfin, on est quand même amené à, au fond, caractériser un peu l'autonomie d'ensemble du champ, même si une variation interne. Bon. Alors, bon, le champ gagne un tout petit peu d'autonomie dans le premier tiers du XXe siècle, puis ensuite, il a un certain degré d'autonomie qui semble se maintenir jusque dans les années 60, avec l'interruption du régime de Vichy. Et là, moi, je m'appuie un peu sur les travaux notamment de Gisèle Sapiro sur le champ littéraire, dans lequel elle montre que, à la fois, l'État réussit à mettre la main sur le champ littéraire, et qu'en même temps, et même dans les modes de fonctionnement les plus étatisés de la littérature que l'on trouve entre 40 et 44, elle montre que même en redevenant très dépendant du politique, un certain nombre de structures du champ se maintiennent, qui en fait sont prêtes à refonctionner tout de suite après 45. Bon. Et d'une certaine manière, je pense que le champ sportif montre les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'au fond, on peut dire que le champ a acquis une certaine autonomie qui peut être suspendue provisoirement par un régime politique. Pas de problème, il n'y a pas... Les forces ne sont pas comparables. L'État très facilement anéantit l'autonomie de n'importe quel type de champ culturel. Ça ne lui pose pas de problème. Bon. Mais bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette notion d'autonomie, bon, qu'on va qualifier de globale, d'autonomie globale du champ, que je mentionnais, première phase, deuxième phase, etc., bon, c'est ce degré d'autonomisation du champ et ce mécanisme d'autonomisation du champ, c'est un mécanisme réversible. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est pas une loi automatique, mécanique d'autonomisation comme ça, qui irait grandissante. Voilà. Oui, c'est pas une fonction monotone, croissante. Comme
justement, aujourd'hui, voilà. Vous porteriez quelle regard sur la dernière
scène? Avant de répondre à ça, un autre point. À mesure que le champ s'autonomise, donc, par exemple, il s'autonomise, on peut dire que le champ sportif gagne une certaine autonomie. Cette autonomie, c'est essentiellement par rapport au politique, par rapport à l'économique, et par rapport, on pourrait dire, aux normes morales de la vie sociale. C'est, disons, trois axes. Bon. À mesure que un champ s'autonomise par rapport à une sphère de la vie sociale, par rapport à la sphère politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de relation par rapport à cette sphère. Ça veut dire que les relations par rapport à cette sphère sont aménagées autrement. Alors, moi j'ai travaillé sur les relations entre l'État et le sport. Et, une partie était publiée, mais pas des masses. Les choses ne sont pas publiées. Mais, ce qu'on peut dire, c'est qu'à mesure que le champ sportif devient plus autonome, l'État est obligé de créer des organes différents pour pouvoir intervenir dans le sport. C'est le cas, on peut dire, entre 1930 et le début des années 60, la mise en place de la politique gaulliste. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis les années 80 ? Il est clair que les organes, d'ailleurs, font des dispositifs, des trucs, des organisations, des mécanismes, des règles juridiques, des tas de trucs un peu bizarres, un peu divers, que les dispositifs qui relient le sport, par exemple, à l'économie, changent. Bon. Quand on regarde certains points particuliers, on a l'impression que l'autonomie du sport diminue. Maintenant, bon, c'est compliqué. Par exemple, bon, tout à l'heure, je citais l'histoire de Paris-Dakar, l'année où Peugeot a choisi le vainqueur, quoi. Bon, qui est un truc contraire à la logique de la compétition sportive, hein, qui est au fond une interférence par rapport à la pure logique sportive. Bon. Mais c'est quand même assez rare. Et les trucs qu'on cite dans les articles de Vigarello, dans différents articles, qui citent des débordements du marketing, des préoccupations d'entreprise sur l'organisation du sport, c'est au fond des choses assez minimes. Le fait qu'on ait changé la couleur des ballons pour les besoins de la télévision en football, ou le fait qu'on ait modifié les temps de temps mort, dans je ne sais plus quel sport d'équipe, pour des questions de soit dans les sports américains, pour la télévision américaine. Ça, je dirais que ça ne brise pas la logique sportive. C'est pas la même chose que ce qu'avait fait le régime de Vichy vis-à-vis du football. En 43, donc le régime de Vichy prenait de plus en plus mettait son grappin sur l'organisation du sport, et pour développer un des thèmes de la révolution nationale qui était les régions, la tradition, les campagnes, etc., bon machin, ils imposent au football de décomposer les équipes de clubs et de créer des équipes régionales. Ben, ça fait une merde totale, le championnat, en dehors du fait qu'il y avait la guerre qui est en train de se terminer, quoi. Mais disons, le championnat est complètement perturbé. Le championnat de France de football. Parce que c'est plus des équipes de clubs, donc qui est sélectionné, Non, finalement, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, c'est l'équipe d'Angle-Croussillon qui gagne contre l'équipe du Poitou-Limousin. Non, ça n'a plus de sens. Les mecs du football sont furieux, on ne comprend plus rien, les clubs sont décomposés. Enfin bon, voilà.
On a un peu la même logique à l'envers avec le marché aujourd'hui, où les supporters de clubs vous diront: ah, mais maintenant, avec le mercato, ils changent tous les ans, ils vont au club le plus offrant, il n'y a plus de racines.
Oui.
Donc vous avez un peu le phénomène exactement inverse qui va être reproché finalement, cette fois, à la logique marchande.
Vous avez effectivement des alternatives, comme celle dans la sociologie du football, entre les clubs qui forment et les clubs qui achètent. Bon, alors c'est vrai que les clubs qui forment, c'est logique sportive, logique de club, éducation sportive, etc. Bon, accumulation de capital sportif, bon. Et puis finalement, accumulation de capital sportif qui revient au club qui a accumulé ce capital, etc. Tandis que le marché des joueurs, la circulation rapide des joueurs, etc., bon, c'est une logique purement marchande, effectivement. Voilà. Bon. Donc il y a ces trucs-là. Mais, bon. En même temps, on ne peut pas dire que la logique du sport soit dissoute par la logique libérale, par la logique du marché. De ce point de vue-là, Et par ailleurs, le sport, initialement, avant que le sport justement soit lié à l'État, qu'il y ait reconnaissance d'utilité publique des fédérations, qu'il y ait des subventions d'État qui percolent dans le système sportif, etc., le sport, quand il était associatif, et même s'il avait un degré d'autonomie très faible par rapport aux normes de la vie sociale, c'est-à-dire si c'était des clubs qui étaient très bourgeois, très ouvriers, très ceci, très cela, très liés en fait aux communautés locales, donc il y avait une autonomie sociale qui était faible, ils étaient quand même très centrés sur l'auto-organisation, sur des choses de ce type, quoi. Donc voilà, il y avait des valeurs. Les valeurs associatives, ce n'est pas des valeurs nécessairement, au contraire. Je sais pas, c'est compliqué, hein.
Non, je veux tout à fait. Ouais. C'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut se méfier des lectures simples, et je pense que c'est un message très important à faire passer. Ouais. Après, c'est aussi de voir un petit peu justement à quel point ça investit symboliquement le sport. Ouais. C'est intéressant. Et de ce point de vue-là, alors, une des premières questions, c'est que donc, vous avez fait beaucoup de rapprochements, et c'est un rapprochement que je fais aussi, entre la culture, enfin au sens justement d'objet d'action publique, et le sport. Ouais. Et donc, jusqu'à quel point, selon vous, on peut pousser cette analogie entre la culture
la politique de la culture, la politique du sport.
Voilà, politiquement. Ouais. Et sur la nécessité, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on est en train de remettre en cause complètement la nécessité de l'intervention de l'État dans le sport. Mmh. L'idée qu'il y aura un service public, ça reste des choses qui sont très floues finalement. C'est une autre question que je voulais vous poser qui était qu'est-ce que serait le service public du sport, et finalement, comment il a évolué depuis notamment 58 et fin 60, quand De Gaulle a voulu le prendre en
main. L'analogie, le parallélisme avec les politiques de la culture, il est tout à fait faisable. Moi, j'avais été, justement, j'avais présenté dans un truc de, je crois, de sciences sociales, le bouquin de, je crois, c'est Vincent Dubois, qui a fait un bouquin sur les politiques de la culture, et qui regarde comment l'État s'est mis à s'occuper de culture, ce qui n'avait rien d'évident. Parce que de reconnaître une capacité de discernement et de jugement en matière culturelle à un fonctionnaire d'État, c'était un truc, rien. Bon. Mais d'une certaine manière, c'est la même question qui se pose pour le sport. On le voit bien, dans les années 20, bon, on confie la distribution des premières subventions, par exemple, à Henri Pathé. Bon, c'est un type qui a été dans l'armée, c'est un député, etc. Bon, voilà. Donc on se dit, bon, les militaires, ils savent un peu ce que c'est que la formation physique. En fait, il n'y a pas trop de personnel politique et de personnel d'État qui soit versé dans les questions sportives. Donc, que l'État s'occupe de sport, ça n'a rien d'évident. Et en fait, c'est par des biais tout à fait particuliers, comme par exemple les politiques de la jeunesse ou les politiques de santé, que l'État s'occupe de sport. Donc en fait, c'est par le biais de l'éducation physique et de pratiques de loisirs sains, de plein air, etc., bon, les choses de ce type, que l'État s'implique dans la question du sport. Le reste du sport, ça le regarde pas vraiment, et au contraire, il met des taxes sur les spectacles sportifs, etc. Entre les années 30 et les années 60, ça c'est marrant, la politique de l'État vis-à-vis des activités physiques et sportives, c'est que d'un côté, il subventionne ce qui est amateur et éducatif, de l'autre, il taxe les spectacles et tout ce qui est professionnel, etc. Donc on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Quoi. Voilà. Alors, bon, on commence... Vous voyez comment l'État, comment une politique en fait une politique publique du sport se construit, c'est au nom d'une des catégories d'intérêt général, qui va être soit l'éducation de la jeunesse, soit la santé publique.
Et pas la défense, vous aviez...
ben, la défense, c'est le 19e siècle, mais.
D'accord, mais plus moins... aujourd'hui, ce serait quelque chose qu'on pourrait plus évoquer.
Ben, disons, ça reste encore avant la Deuxième Guerre mondiale un petit peu, puisque les clubs d'athlétisme, par exemple, sont tenus, s'ils veulent toucher des subventions, d'avoir une section de préparation militaire. Bon. Et ça va rester jusque dans les années 50-60. Il y avait encore des sections de préparation militaire au PUC, je pense, au début des années 60, il y avait des trucs comme ça. Mais bon, ça décline parce que, de toute façon, la préparation militaire est un échec, hein, ça, Spivak l'a bien montré. Même les militaires, tout ça, ont un peu abandonné cette idée-là. Donc, c'est pas vraiment l'idée d'une préparation militaire, parce qu'au fond, la préparation militaire, c'est un truc spécifique. Et par ailleurs, il y a une partie des militaires, notamment les militaires vraiment républicains, il n'y a pas ceux qui sont fascistes, ceux qui sont républicains, qui considèrent qu'au fond, la préparation militaire, c'est l'armée qui doit la faire, et elle doit en garder le monopole. Et il ne faut pas disséminer l'apprentissage des techniques de combat en dehors de l'armée. Donc en fait, ils ne sont pas favorables à ce qu'on fasse de la formation militaire en dehors de l'armée. Ils disent, c'est nous qui la faisons. Donc il y a le système du service militaire, ça, et c'est nous qui faisons la formation militaire. Par contre, ils disent, faites-nous des adolescents costauds, des adolescents solides. Donc c'est plutôt l'idée d'une éducation athlétique et hygiénique, quoi. C'est-à-dire les gens bien développés, les jeunes, une jeunesse saine et vigoureuse. Ouais, c'est ça. Donc ça a des relents nationalistes et patriotes quand même, hein.
Voire fasciste, justement, vous avez évoqué oui. Le spectre un peu nazi, ouais. Fasciste. C'est intéressant de voir comment vous expliquez que justement en 60, De Gaulle ait pu affirmer cette volonté de mainmise de l'État. Je veux dire, officiellement, ouais. Il aurait pu le faire un petit peu en douce, entre guillemets, ouais. De manière moins visible, et pourtant là, il l'a fait au contraire de manière très voyante. Ouais. Alors que paradoxalement, on aurait pu invoquer, mais attendez, la guerre est finie depuis 15 ans et on veut pas de prise en main comme ça d'embrigadement de la jeunesse.
Bah, ce qu'il faut dire, c'est que l'intervention des gaullistes dans le sport provoque des réactions scandalisées dans la plupart des fédés. Là, on a des documents, on a travaillé là-dessus. Bon, moi, j'ai interviewé des gens. J'avais interviewé Magakian, qui avait pris le contrôle, qui était DTN de la Fédération de gymnastique, etc. Il dit, bon, c'est des trucs, ça provoque, etc. Donc, non, c'est... Et par ailleurs, il y a eu en permanence, au cours du développement des politiques gaullistes, pas uniquement dans le sport ailleurs, il y a eu en permanence notamment l'opposition qui a dit, voilà, c'est le retour des généraux, il va installer un régime fasciste, etc. Donc en permanence, les gens ont soupçonné de Gaulle d'avoir une espèce de projet, de prise de contrôle un peu totalitaire du truc. Il se trouve que ce n'était pas le cas. Il se trouve que c'était effectivement une droite étatiste, mais pas totalitaire. Bon, donc une formule assez originale que tous les gens étudient maintenant historiquement en se disant « Putain, ce truc, c'est incroyable, c'est une droite. » Bon, liée beaucoup à l'État-providence, liée beaucoup à des politiques sociales, mais qui sont des politiques sociales de droite, mais pas libérales. Et qui renvoyaient à des filiations de droite, de la droite non libérale. Hein, de Gaulle, c'était un type qui était explicitement proche de l'Action française, etc. Hein. Oui, donc c'était. Il faut lire l'histoire politique pour comprendre ça. Hein, mais,
c'est comme Coubertin en temps de nuit quand on découvre qui il était réellement.
Oui, voilà, mais justement, De Gaulle, c'est une filiation qui est assez différente, par exemple, de Coubertin, puisque Coubertin, c'était une droite libérale, tandis que De Gaulle, c'est une droite nationaliste. C'est pour ça qu'il est parti quand il y a eu l'occupation allemande, parce qu'il y a une partie de la droite qui ne pouvait pas être collabo. En étant nationaliste, franco-français, etc., c'était le pire des déshonneurs. Quoi. À la limite, il y avait des gens qui étaient de la nouvelle droite dans l'entre-deux-guerres, la droite moderniste, celui qui avait développé à partir de 1930 les thèmes de la modernisation de l'État, il y avait les jeunes turcs qui étaient chez les radicaux, etc. Eux, quand ils ont vu ce que c'était que le fascisme italien ou le nazisme allemand, et notamment certains aspects modernes, ils ont pu adhérer à ça. Mais les gens qui étaient pour la patrie indépendante, la France de toujours, etc., bon, envahis par l'Allemagne, d'ailleurs, c'est le désespoir total, quoi. Dire, là, c'est, bon. Donc, mais en même temps, De Gaulle, c'est pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment à droite, mais c'est quelqu'un qui sort d'une droite qui est à la fois nationaliste, mais au fond indépendante vis-à-vis des puissances étrangères, vis-à-vis des Américains. On voit bien que c'est une politique nationaliste, une politique comme ça. Bon, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est très différent du libéralisme économique. De Gaulle, il avait des idées assez vagues sur l'économie. C'était un mec qui était très faible en économie. Il avait des conseillers économiques à côté de lui, etc. Bon, il y avait Jacques Rueff, qui était d'ailleurs des libéraux, qui avait des gens. Mais bon, voilà. Donc, lui, il développe une politique qui est une politique de la droite appuyée sur l'armée, pas sur la religion. Il est beaucoup moins religieux que Sarko, hein, De Gaulle, bien qu'il soit catholique lui-même. très cathos, etc. Mais finalement, ils ne favorisent pas spécialement les catholiques, ni rien. Une espèce de truc républicain, nationaliste, indépendant, un truc comme ça. Bon. Et puis, il est dans une phase d'économie extrêmement favorable, donc il lance des programmes économiques qui sont des programmes économiques nationaux, qui est un truc qui est une hérésie économique. C'est-à-dire, il lance le plan calcul en informatique qui va être un échec cuisant, il lance un plan du nucléaire qui avait été lancé avant, qui a été lancé par Mendès France, etc. Bon. Le plan de l'aéronautique qui va être un succès, etc. Bon. Donc une espèce de. L'économie et les plans économiques nationaux, alors que la plupart des mecs qui sont en univers des entreprises, ils montent des entreprises, mais bon, s'il faut prendre des capitaux étrangers, ils prennent des capitaux étrangers, ils vont faire ça, etc. Bon, l'économie libérale, elle n'a pas de nation. Les libéraux, c'est une notion qui n'a pas de pertinence, la nation. C'est, y a le capital, il y a l'espace de circulation de capital, voilà, on fonctionne comme ça, quoi. De Gaulle, c'est quelque chose de très très différent. Alors après, bon, le gaullisme s'est associé à des tas de gens, et chez les gaullistes, il y avait des libéraux, hein, parce que De Gaulle, il n'a pas transformé la France en Union soviétique. Hein. Il intervient dans des domaines, mais au fond, bon, dans la culture, avec Malraux, etc. Donc il intervient dans des domaines où il choquait les libéraux, mais en même temps, c'était une intervention assez limitée, en fait.
La délégation de service public justement ouais. Fédération, vous l'interprétez comme justement la volonté de ne pas apparaître comme trop dirigiste, enfin comme montrer.
Ben c'est compliqué. C'est un truc qui est compliqué. Parce que finalement, c'est un texte qui date de 1945. Donc c'est au moment où De Gaulle était là, c'était l'alliance de la libération, là, hein, donc c'est des trucs de ce type. Donc en fait, il conserve l'idée qui est quand même très vichiste, que c'est l'État en France qui organise le sport. Qui est un truc qu'on voit nulle part ailleurs, quasiment, sauf dans des états forts, mais ni en Angleterre, ni en Allemagne, rien. Bon. Bon, il délègue, l'État délègue aux fédérations parce que je pense qu'en 1944, l'État avait très très peu de personnel compétent pour s'occuper de sport, et que les mecs qui faisaient de la politique dans l'État, ils n'ont rien à foutre du sport, c'est un truc inintéressant possible. Bon, on laisse les fédérations s'occuper de leurs affaires. Avec toujours la possibilité de récupérer le pouvoir si les fédérations font pas ce qu'on leur dit. Quoi. Bon, jusque dans les années 60, il se passe rien. Les responsables de l'État ne font quasiment jamais rien. Il y a un plan en direction de l'athlétisme en 54, parce qu'il y avait le colonel, comment il s'appelle, pas le capitaine Clayeux, mais l'autre. Celui qui a été responsable du sport au ministère là, jusqu'aux années 60. Donc on reviendra. Pas Crespin, c'était un type qui était avant. Mais en gros, bon, l'État, au fond, a la possibilité de récupérer le pouvoir sur les fédérations, mais il ne s'en sert pas. Et ça n'intéresse personne. Et de fait, jusqu'à la fin des années 50, les enjeux politiques dans le sport... sont. Alors moi, pareil, c'est un truc que je pense que d'autres historiens disent, et puis que moi, je vois ça comme ça, sans avoir été peut-être assez loin pour l'affirmer sérieusement. Mais disons, les intérêts politiques dans le sport sont constitués uniquement chez les catholiques et les communistes. Toujours en raison de l'encadrement de la jeunesse. Le sport étant un enjeu politique, mais encodé dans les questions de la jeunesse et les questions. De la santé, c'est surtout les questions de la jeunesse en fait, qui mobilisent les gens. Et donc il y a les catholiques et les communistes qui, eux, sont capables de construire disons, la signification politique du sport. Les autres, alors il y a les réseaux radicaux qui ont été, les réseaux radicaux francs-maçons qui sont très présents dans le sport, avec des médecins, avec des bon, les radicaux qui sont des gens qui sont toujours entre la gauche et la droite, entre Vichy et la Libération. Donc il y a quelques types qui interviennent comme ça, mais. C'est, bon, disons, dans les travaux historiques très détaillés qu'on fait, on les retrouve, quoi. Et c'est pas marquant, quoi. C'est pas marquant. Donc, bon, voilà, l'État, en fait, oui, il se sert pas tellement de cette espèce de possibilité. Alors après, De Gaulle, il s'en sert. Voilà, il s'en sert. Mais il s'en sert... Bon, ça, en fait, il s'en sert. C'est Herzog qui s'en sert, parce que Herzog est un type très, très stratège. C'est un type intéressant, Herzog, hein. Parce que c'est un type qui vient de l'entreprise, donc qui est un cadre d'entreprise, et qui qui a quand même l'esprit d'entreprise, qui a quand même l'esprit, bon, même si c'est pas Carrefour, hein, l'entreprise dans laquelle il est, mais c'est quand même un cadre d'entreprise avec l'idée qu'on forme des équipes, des petites équipes fonctionnelles, comme ça, etc. Bon, l'idée qu'on a des stratégies vis-à-vis des subordonnés. Quand il a manœuvré les profs de gym ou les présidents de fédé, comme dans une entreprise, on sait que les salariés, etc., bon, même les cadres subalternes, il va falloir leur faire accepter une nouvelle stratégie entre eux. Donc c'est un mec qui est quand même un type qui sait manœuvrer. Je pense que les travaux de Jean-Luc Martin là-dessus sont assez justes. Quoi, hein. Il a sorti un peu toute une quantité de d'extrêmes discours, d'archives, bon, il a fait des interviews des mecs des années 60. Bon, là-dessus, je pense qu'il voit assez bien les choses. Quoi, hein. Et donc, bon, ben là, parce que bon, après, on rentre dans une espèce de démarche de sociologie politique, c'est-à-dire on regarde comment une politique se construit, la construction de l'agenda, la façon dont ça se déroule, les moments où ça. Où on peut y aller, là, les fenêtres d'opportunité, machin, ça. Bon, c'est vrai qu'à part de ça, on peut analyser. Donc, c'est vrai que, bon, concrètement, Herzog, il fait plusieurs choses qui sont assez cohérentes. Hein, en 6 ans, il prend différentes mesures qui ont une espèce de cohérence. On voit que le mec, il revient toujours à ses mêmes obsessions. Quoi, donc, ça donne une espèce de corps à son truc. Au départ, on ne sait pas trop s'il avait un plan, parce que. Ce qu'il déclare dans les premières interviews, hein, de politique comme ça, je ne suis pas sûr que ça préfigure ce qu'il va faire, mais par contre, il revient à la charge, il fait des trucs, ça rate, il recommence, il revient, bon, en éducation physique, il essaye de faire passer le sport comme support d'éducation physique en 59. Ça ne marche pas, c'est l'inspection générale qui arrive à maintenir une éducation traditionnelle. Bon, il se démerde dès l'année suivante pour recomposer des commissions, etc., pour marginaliser l'inspection générale qui l'a emmerdé, etc., pour composer une commission avec des hauts fonctionnaires, des mecs qui viennent du sport, qui sont pro-sportifs, et hop, il repart à la charge. Dès 61-62, il passe des décrets. Les décrets ou des arrêtés, il n'a pas besoin de s'emmerder avec une concertation. Les décrets qui disent que l'éducation physique, elle est déjà sportive. Et puis, la commission qu'il a mis en place, qui est favorable au sport, pof, elle sort des instructions officielles en 67. Paf, elles sont pro-sportives. Donc, il a raté un coup, mais hop, le coup suivant, il ne le rate pas deux fois. Quoi. Le mec, il se débrouille. Donc, il prend des mesures comme ça sur le sport scolaire, bon, sur les fédérations, il leur fait changer leur statut. Bon, voilà. Il ne réussit pas tout. Mais, et là, dans les moyens qu'il utilise, il utilise éventuellement la suspension de la délégation. C'est-à-dire, quand les fédérations ne font pas ce qu'ils demandent, il dit, bon, ben voilà, on vous a donné le temps, on a fait la concertation, je vous ai demandé de faire ça, vous ne le faites pas, paf. Donc, il y a l'affaire du sport scolaire, et puis il y a aussi quand même les menaces sur les fédérations. Je ne sais plus si c'est... Il y a deux moments, il y a 61, et puis je crois qu'il y a 63, où la pression du ministère, enfin de Herzog, est forte. Il y en a eu, je crois, c'est la deuxième, dans laquelle il y a des statuts types qui sont imposés aux fédérations. Bon, voilà, il exerce une pression, il dit, voilà, si vous obtempérez pas, moi, je crée une autre fédération pour le sport dont vous occupez, hein, et puis je financerai l'autre fédération, puis vous n'aurez plus rien. Donc, tous les sports amateurs qui à l'époque, dans les années 60, vivent à, il faut regarder les budgets, vivent à 40, 50, 60% de subventions. Pour le sport scolaire, c'est ce qu'il fait. Hein. Le sport scolaire, il obéit pas aux injonctions d'Herzog. Herzog lui enlève la délégation et crée une organisation parallèle. Oh, le sport scolaire, il s'effondre, il n'y a plus un rond. Et finalement, sous la menace, il finit par se... l'organisation parallèle finalement n'est pas vraiment mise en place. Sous la menace, le sport scolaire finit par obéir. Quoi, hein. Donc là, il y a effectivement un côté autoritaire. Mais on voit bien que les gaullistes l'ont utilisé de manière, je dirais, un peu alternée. C'est-à-dire que, bon, par exemple, De Gaulle, il a gouverné par décret entre 58 et 62, tant qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Bon, il a gouverné par décret. Bon, il fallait voir cette situation. il faut aller voir le truc. Il y a un gouverner, c'était vachement difficile. Le truc partait dans tous les sens, il y avait les généraux qui dissensions, il y avait les machins, les fonctionnaires qui étaient en grève, c'était le soupe total. Donc le type, il dirige par des moyens autoritaires. Et bon, il fallait aussi contrôler plus ou moins l'opinion Algérie française, l'habituer à l'idée que les gens ont cru qu'il était Algérie française de Gaulle au départ. Après, finalement, il a. Bon. Mais une fois que cette phase critique est quand même passée, le mode de gouvernement des gaullistes redevient un mode de gouvernement. Il utilise moins les décrets, bon, le 49-3 qui avait été la gauche contre quand, là, il l'utilise moins. Bon, il y a encore quelques trucs qui sont vraiment. Mais bon, donc en sport c'est un peu pareil. Une fois que les moments chauds sont passés, ils l'utilisent moins. Donc après, ben, de fait, la délégation aux fédérations se remet à fonctionner. Quoi. Alors par contre, je pense que c'est ce que dit Loirand. La thèse de Loirand, ça, elle est très importante.
Ouais.
C'est que bon, l'intervention de l'État dans le sport, elle passe par. Au départ, non pas par l'administration des sports, mais par deux administrations qui sont des administrations d'État classiquement, qui sont l'armée et l'éducation nationale. Bon. Donc, le fait que l'État ait réussi à, en fait, faire entrer les profs de gym au sein des cadres de la jeunesse et des sports, notamment à travers le système des brevets d'État, c'est un coup vachement fort. Parce que de fait, même sans mettre son nez dans les associations sportives, dans les affaires des sportifs, etc., le fait qu'à travers les profs de gym, qui sont des cadres d'État, l'éducation nationale, qu'on arrive à modeler les formations, les brevets d'État, l'état de machin, etc., l'activité de certaines fédérations, comme l'athlétisme, où il y a plein de profs de gym, le handball, etc., c'est un coup vachement réussi, parce qu'au fond, c'est un contrôle. Et c'est l'injection de catégories de pensée d'État à travers un dispositif qui apparaît comme ça. Non, non, le sport il est autonome, les clubs ils fonctionnent comme ils veulent, les fédérations.
Et ça, justement, le fait qu'en 82, les profs de PS soient par exemple repassés dans le giron de l'éducation nationale, que là récemment, je crois que c'est Aubry qui a permis aux fédérations de créer leurs propres brevets à côté des brevets d'État. Enfin, de fait, aujourd'hui, on peut devenir enseignant d'APS. Indépendamment du brevet d'État, est-ce que c'est pas une marque justement de ce recul
de désengagement progressif
de l'État?
Moi, je dois dire que bon, d'une certaine manière, le projet que j'ai de retracer comment se forme un champ et comment il s'autonomise jusqu'aux années 60-70, c'était pour préparer une analyse de ce que c'est que le mécanisme qui se déroule depuis les années 70-80 et qui est une forme de, à la fois de, oui, en fait, de déstandardisation. Et de dérégulation du champ sportif. L'idée, c'était ça. Parce que là, je n'ai pas été assez vite dans ma première phase, ce qui fait que pour l'instant, je n'ai pas consacré énormément d'énergie, pour répondre à la question posée, plus vraiment d'énergie à caractériser la phase actuelle, quoi, hein, qui est une phase depuis les années 80. Et qui est à la fois une phase de. Non pas de déstandardisation, mais en tout cas de multiplication des standards dans le sport. C'est-à-dire que les standards qui existaient n'ont pas été défaits, mais on a créé de nouveaux standards avec de nouvelles pratiques sportives, etc., qui fait que bon, voilà, les standards du sport sont devenus beaucoup plus variés que ce qu'ils étaient à la fin des années 60. C'est un truc qui est très frappant. À la fin des années 60, donc on est à, disons, au point d'aboutissement d'une phase au fond très stable des institutions sportives depuis la fin des années 20, disons. Les institutions sportives sont très stables. Il n'y a pas tellement de nouveaux sports depuis 30-40 ans. Il y a des fédérations installées, bien spécialisées. Il y en a qui sont amateurs, d'autres qui ne sont pas amateurs. Le truc est vachement stable. Et au fond, le sport, c'est une activité traditionnelle. C'est devenu une espèce d'activité traditionnelle. Dans lesquelles les valeurs de discipline, de conformisme sont dominantes avant que les nouvelles pratiques arrivent. Il y a les vieux qui conseillent les jeunes dans les clubs, on entre dans un programme de compétition quand on est dans un club. J'ai fait de l'athlétisme dans les années 60. On entre dans un club, il y a les vieux, il y a le programme de l'année, c'est toujours le même depuis des années. C'est pas les valeurs d'innovation qui comptent, c'est des valeurs de compétition, mais dans un cadre qui est extrêmement normé, qui est extrêmement traditionnel, dans lequel on se soumet à la hiérarchie, on se soumet à la sanction du chrono, etc., à un univers très naturalisé. Bon. Alors c'est vrai que l'arrivée des nouvelles pratiques sportives explose ce domaine. Bon, plus le processus de démocratisation des pratiques sportives aussi, qui est antérieur, mais plus long, etc. Bon, ça explose le domaine et introduit de multiples standards, des critères beaucoup plus variés, les valeurs d'innovation technique entrent dans le sport, alors qu'elles étaient très peu. À la fin des années 60, en dehors à toute fin des années 60, il y a l'innovation dans le ski, avant il y a les skis métalliques, puis ensuite... Mais autrement, c'est pas innovation qui est... C'est faire comme les aînés, c'est faire comme les vieux du sport. Il y a à côté, il y a tous les dirigeants Vichy sont encore là, à la fin des années 60. Je l'avais montré dans l'article sur l'athlétisme, ils sont tous là encore. Biologiquement, ils ne sont pas morts, ils sont encore là. Donc ils sont restés. Il n'y a pas eu d'épuration ni rien. Donc on fait ça comme dans les années 30. Jusqu'à la fin des années 50, c'est les mêmes. On recommence. C'est les mêmes. Et ce truc-là tombe. Et c'est vrai que les gaullistes, ils arrivent à un moment où, comme ça tombe, ils embrayent sur un renouvellement. Bon, ils font valser. Mais ils ne font pas tellement valser, puisque par exemple, la commission de la doctrine du sport, qui est mise en place en 62 et qui en sort pas en 66, elle est dirigée par Borotra, commissaire. Donc c'est quand même très ambigu, hein, on voit bien que c'est... Mais il y a quand même, dans les fêtes, il y a quand même des jeunes qui arrivent, notamment tous les DTN qui vont être nommés par les gaullistes. Là, c'est des jeunes générations, et les DTN, c'est des mecs qui vont pousser les vieux vers l'hospice. Hein, et puis, ils déménagent, tout ça, ils font entrer un nouveau...
Dans un de vos articles, je ne sais pas lequel, ouais. Mais à un moment, vous faites une tripartition dans les dirigeants justement du mouvement sportif. Vous expliquez qu'il y a les dirigeants associatifs, il y a aussi des dirigeants enfin, un petit peu aristocratiques, ou plus qu'aristocratiques, de dirigeants justement qui sont là un petit peu à vie ou très longtemps. Et est-ce qu'il y a un recrutement spécifique à l'intérieur du ministère de la jeunesse et des sports? Enfin, c'est pas quelque chose là sur lequel...
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... Non, j'ai pas de point de vue. Moi, ce que j'ai... Non, sur cette question du ministère, il y a un travail d'un type, je ne sais pas son nom, mais je pourrais vous envoyer ça à la référence. Il y a un mémoire de DEA en sciences politiques qui a été fait à Grenoble sur l'administration de la jeunesse et des sports. Et puis autrement, il y a la thèse d'Olivier Lenoé qui a été faite avec Auferlé et qui part de 1940 et qui va jusqu'à 1975, je crois. Et qui est une thèse originale, c'est pas de l'histoire chronologique, hein. c'est un truc assez... Bon, en même temps, parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais c'est un truc assez intéressant. La thèse de Lenoé, bon, Lenoé est à Paris dans mon labo. Là. Donc, moi, sur le ministère, c'est un peu la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... J'ai pas avancé le travail comme je le souhaitais, mais j'avais commencé à travailler sur la question de l'État et le sport il y a pas mal d'années. On avait démarré avec Jean Harvey, qui est un Canadien, et puis un autre Canadien, mais qui a eu un rôle un peu moins important, Rob Bémich. On avait démarré une analyse comparative internationale pour essayer de comprendre comment l'État a commencé à intervenir dans le sport, comment il est entré dans le sport. Donc c'est des années sur les années 60, ou sur les années 30, pardon. En fait, on avait l'objectif d'aller jusqu'aux années 60, mais on a un peu laissé tomber en cours de route, parce qu'on avait autre chose à faire. On avait regardé dans les années 30 comment, au fond, l'État arrive à mettre un coin, à rentrer... l'univers sportif qui au départ est un univers associatif, auto-organisé, relevant du droit privé et dans lequel on pouvait penser qu'a priori la plupart des sportifs n'avaient pas du tout envie de voir l'État venir s'occuper de leurs affaires.
Donc en fait, à partir de ces analyses, j'ai été plutôt centré sur comment l'État intervient entre les années 20 et les années 50. Bon, dans ce cadre-là, j'ai regardé évidemment quelques biographies, quelques types de personnels qui ont été susceptibles d'intervenir dans ce truc-là. Mais entre-temps, je n'ai pas poursuivi sur les années plus récentes. Il y a eu le bouquin de Khaled sur les politiques sportives qui est paru. Bon, le travail de Le Noé, etc. Moi, je n'ai pas d'indication plus précise. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que là, il faut regarder comment des services, en fait des moyens d'agir pour l'État. Quels sont les moyens d'agir pour l'État? En fait, l'État, il se dote de services qui lui permettent d'intervenir, de, je sais pas, d'étudier des dossiers d'équipement ou de stimuler la mise en place de stages de formation, des choses comme ça, quoi, hein, ou de gérer la distribution des subventions. Donc, il met en place des services. Il faut regarder la succession des services, les types de services qui sont mis en place. Moi, j'avais vu un peu, il y a des choses qui se font à peu près à l'époque du Front Populaire. Il y a une petite esquisse de trucs. Il y a sous Vichy, il y a d'autres types de services. C'est un peu les mêmes en 45. On fusionne les services de la jeunesse, les services des sports, mais en fait, c'est un peu les services qui ont été mis en place par Vichy. Il n'y a pas des masses de choses très neuves jusqu'en 58. Puis après, moi, je suis pas trop revenu. Alors, j'avais travaillé aux archives nationales. Il y a pas mal de choses, hein, sur les archives de la jeunesse et des sports. Donc, j'ai des notes. J'ai pris plein de notes. J'avais écrit un article que j'ai envoyé à Anal qui a été refusé. C'est resté dans mes dossiers, ça n'a pas servi. Donc là, le truc est un peu resté comme ça. Et puis c'est difficile de dire. Bon, en dehors des dirigeants, on peut chercher à faire la biographie du directeur des sports, des commissaires ou des sous-secrétaires d'État et autres personnels de ce type. Mais au-delà de ça, je crois qu'on rencontre très très vite des difficultés, c'est-à-dire qu'on peut avoir les noms des gens, on peut avoir les services, les noms des gens qui sont occupés, donc faire une sorte d'échantillon de personnel d'État, mais savoir ce que ces gens sont, ont été, ce qu'ils ont fait, je pense qu'il va y avoir du boulot. Hein.
C'était pour savoir si vous aviez un point de vue.
Voilà. Ouais, non, j'ai pas d'idée particulière. Ce qui semble clair, c'est que même après 45, ça c'est dit dans les travaux de sociologie politique, dans les travaux de Marianne Amar, dans les travaux de Martin, peut-être. Marianne Amar en parle. C'est le fait que aller dans les services de la jeunesse et des sports, c'est pas très valorisant. Pour des gens qui sont affectés dans des personnels d'État. Donc que ce soit à n'importe quel niveau en fait, hein, c'est pas très valorisant. Et par exemple, les problèmes qu'il y a, parce que l'éducation physique, elle est à l'éducation nationale en 45, puis ensuite elle passe à la jeunesse et au sport en 58, puis elle revient à l'éducation nationale en 80. Mais le personnel qui est dans ce service-là, d'être à la jeunesse et au sport, ça lui a pas plu, parce que l'éducation nationale, c'était plus coté. Donc c'est des trucs assez compliqués, et la construction d'un personnel, que ce soit des différents niveaux, hein, des chefs de service, des gens au-dessous, etc., c'est un processus qui est... Alors pendant longtemps, les administrations d'État sont composées de gens qui sont recrutés dans des conditions pas claires, avec des, notamment Vichy. Alors, Le Noé a montré, Vichy recrute dans des conditions d'exception. Donc les gens qui sont recrutés, c'est n'importe qui, sauf le fait qu'ils ont des affinités avec la Révolution nationale, mais autrement, c'est n'importe qui, n'importe quoi. Bon. Donc, après, c'est difficile à caractériser sociologiquement. Et on n'est pas... Alors, les dossiers personnels dans les archives, je crois que c'est 75 ans, sont protégés. Donc on n'est pas 75 ans après 44. Quand c'est des militaires, on a des informations parce qu'il y a les services historiques des armées, on obtient les dossiers plus vite. C'est pas évident, hein, de savoir qui c'est. Pas évident. Alors je pense qu'il faut subdiviser la question en reprenant des services, peut-être des noms individuels, etc. Bon, et peut-être traiter sous forme de biographie,
bon, sans aller vers une vraie prosopographie de tous les personnels d'État, etc. Bon, peut-être aussi pour des périodes récentes, peut-être faire des interviews, avoir des enquêtes, je sais pas, je sais qu'à Nantes, ils ont fait des enquêtes il y a assez longtemps déjà. Peut-être qu'il y a des anciennes enquêtes sur lesquelles on peut avoir des indications un peu collectives sur des catégories comme ça. Mais c'est pas évident parce que il n'y a pas des masses de catégories qui sont purement étatiques dans le sport. Même les brevetés d'État, c'est pas bon.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en s'intéressant même juste à l'élite, entre guillemets, c'est-à-dire aux membres de cabinet, aux secrétaires ou sous-secrétaires, aux ministres.
Peut-être au DTN aussi, peut-être.
DTN. Ouais. Mais ce qu'on voit en tout cas dans les membres de cabinet, c'est effectivement qu'il y a moins d'énarques qui a proposé que. Et une des hypothèses qu'on pourrait faire, c'est se demander si c'est pas un ministère qui est dominé dans le champ des dans le champ ministériel, en tout cas, si on parle du champ ministériel, qui serait dominé et qui, quelque part, aurait un rôle un petit peu de variable d'ajustement. Mais alors, d'ajustement de quoi, ça, c'est la question.
Bah, c'est ce que dit Marianne Hamar à propos de la composition des gouvernements à la période 45-58. Elle dit que, comme c'était la 4ème République, il y avait des dosages politiques très compliqués avec plein de partis petits, etc. Donc les gouvernements, c'était des alliances de partis très composites. Alors, on répartissait, on dosait pour les différents partis, on dosait dans les principaux ministères. Et après, quand on arrivait dans les petits ministères, on récupérait, alors celui qui n'avait pas été bien servi dans les grands ministères, on lui redonnait, je sais pas quoi, l'enseignement technique, la jeunesse et le sport, j'aime ça.
Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que le point commun toujours entre culture et sport, c'est que c'est aussi des ministères qu'on va attribuer à des personnes qui sont issues de la société civile, entre guillemets, qui sont, encore une fois, qui ont cette
image de pas être politique. Ça indique aussi, ça indique aussi le fait que c'est politiquement peu important.
Oui, voilà. Tout à fait. Et puis en même temps, cette image, est-ce que c'est possible aussi, c'est politiquement pas important, ça choquerait.
Cela dit, ils sont quand même que les occupants c'était un secrétariat d'État à jeunesse et non, même pas. Qu'est-ce que c'était? Non, c'était au ministère de l'Éducation, entre 45 et 58, c'était au ministère de l'Éducation nationale, c'était la direction. Non, il y avait quand même, de temps en temps, il y avait un sous-secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui était rattaché à
l'éducation.
Ouais, à l'éducation. Ces sous-secrétaires d'État, il semble que ça a été un peu n'importe qui, y compris les gens qui ne connaissaient rien au sport, etc. Donc c'est pas uniquement du personnel de la société civile qu'on nomme pour des raisons de compétence, au contraire. Parfois c'était un radical de droite, on avait oublié, il n'y en avait pas assez.
C'est précisément la même chose que vous, c'est-à-dire que c'est pas la compétence qui compte. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Bernard Laporte, par exemple, c'est pas quelqu'un qui a une compétence politique ou même une compétence dans l'intervention. Par contre, qui en termes d'affichage, pour montrer l'ouverture du gouvernement, ou en termes d'affichage, c'est fort
parce
de dire, regardez,
on a... Oui, parce que la stratégie a changé aujourd'hui.
Ouais, mais elle a pu l'être. Justement, la question, c'est, dès Herzog, quelque part, Herzog, c'était quelqu'un qui n'était pas complètement politique.
Qui venait du sport.
Il y a cette question-là, il y a cette évolution en 50 ans, finalement, et ça pose la question de ce capital sportif, est-ce qu'il peut se convertir
dans... Ce qui est sûr, c'est que la politique elle-même d'Herzog contribue à constituer la politique du sport comme une politique plus importante qu'avant. Mmh. Voilà. Et même si après il y a des ministres qui ne sont pas trop flambants, hein. ils sont là, on leur a donné ça, mais ils auraient préféré avoir le ministère de la Défense, la guerre, le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation nationale, ils s'y font, quoi. Donc c'est variable, mais c'est vrai que c'est quand même un ministère qui a un rôle plus important, ne serait-ce que parce qu'en tant que sphère d'activité sociale, le sport est devenu, à partir des années 60-70, quand même une sphère plus importante, avec, je pense, une autonomie plus affirmée.
Le grand paradoxe, c'est aujourd'hui, justement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à le détricoter
mais je ne crois pas qu'on détricote, c'est les politiques d'État, c'est-à-dire qu'on est en train de... On est en train de repenser l'articulation entre le champ politique et le champ sportif en ayant d'autres outils et d'autres dispositifs d'intervention d'État dans le sport. Donc c'est une autre manière. Il est possible que l'économie compte mettre le grappin de manière un peu croissante sur le sport, la politique, pas tellement plus que Herzog, à l'époque de De Gaulle. De Gaulle va faire une visite à l'Institut national du sport où il congratule comment elle s'appelait, Marielle Boitschel, qui était devenue une suppo de son parti, l'UDR, etc. Donc je veux dire, bon, il y avait déjà dans les courants à pied, il y avait le courant à pied qui était du côté des gaullistes, c'était Jazzy, il y avait celui qui était du côté des communistes, c'était Bernard, etc. Donc, enfin, je veux dire, il y avait déjà cette espèce de possible polarisation, etc. quoi, hein. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus. C'est avec les méthodes actuelles. C'est sûr que les méthodes actuelles sont des méthodes différentes des années 60. Mais dès la fin des années 60, les gaullistes. C'est la transition avec Pompidou, donc on ne sait plus trop si c'est encore les gaullistes, mais ils font appel à l'agence Publicis pour préparer des campagnes pour faire du sport, etc. quoi. Donc c'est pas très très loin. C'est plus naïf qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les campagnes de communication, c'est des professionnels de la com, on dépense un fric. Mais je pense pas que la logique soit très très différente. Et par contre, les modes d'intervention du politique dans le sport sont quand même assez violents à l'époque des gaullistes. Hein. Il y a des fédérations qui entrent en conflit, qui n'arrivent plus à élire leur bureau, le ministère intervient, dans la fédération de ski, etc. Après les années 60, les années 70, etc., ils remettent au pas les gens, ils interviennent dans le cyclisme, etc. Les fédérations dans lesquelles il y a des détournements de fonds, voilà, ils interviennent aussi, ce qui est normal d'ailleurs. Hein, donc, c'est pas très très différent du point de vue politique, c'est pas moins que ce que fait Laporte. Hein. Mais c'est différent. Effectivement, Laporte, c'est très libéral. On privatise l'INSEP avec les trucs de Lagardère, machin.
Est-ce que. Oui, est-ce qu'il y a un des trucs, par exemple, que.
Mais le libéralisme, ça ne signifie pas moins d'intervention. Au contraire, le libéralisme et la dérégulation, ça s'accompagne de la mise en place d'agences de régulation. Il y en a partout. Il y a des agences partout qui régulent. Donc c'est une autre manière, en fait, de voilà. Voilà.
Ouais. Je suis d'accord.
Mais qui favorise davantage les intérêts privés, etc.
Cette question de ministère d'ajustement aussi, ouais. Ce dont j'ai un peu l'impression, en tout cas ce que disent par exemple certains, là j'ai interrogé certains journalistes notamment, ouais. À propos de Laporte, qui me disent mais Laporte finalement il y connaît rien, il est là pour la galerie, pour l'affichage, ouais. Il s'occupe pas des dossiers, ouais. Et par contre c'est son cabinet qui a été placé, ouais. Directement par l'Elysée au Matignon, ouais. Et qui au fait qui met en place les RGPP, ouais. Dictés par, ouais. Bercy, quoi. C'est, ouais. Des types qui viennent de Bercy, ouais. Et grosso modo voilà, le ministère des Sports c'est une sorte d'ex-croissance de Bercy,
ouais.
Qui met en place un certain nombre de trucs. Et une des questions que je me pose, c'est justement depuis combien de temps c'est ça? Parce que déjà, quand j'en parle à des conseillers de Bambuc, etc., qui, ouais. Me disent déjà à l'époque, c'était déjà Bercy qui avait le dernier mot et qui me disait ce qu'on pouvait faire. Enfin, c'est, on voit que,
oui.
L'importance du budget.
Mais en même temps, c'est un point de vue. Bon, il faudra quand même qu'on s'arrête,
oui,
mais je. On a peut-être dû donner rendez-vous un peu plus tôt. Mais. C'est un point de vue que vous pouvez trouver dans tous les ministères. Dans un ministère, vous avez des gens qui font une ou plusieurs politiques qui vont dans le sens du ministère. C'est-à-dire, voilà, on fait du sport, on développe le sport. Donc ça peut être une politique ou plusieurs politiques. Et puis vous avez, dans tout le ministère, Bercy qui est là et qui dit, bon, t'es sympa, mais je vous laisse, ça coûte trop cher, ça, il n'en est pas question, etc. Bon. Donc, Bercy, c'est le contrepoids dans tout ministère. C'est le contrepoids qui vient apporter des limites à des politiques, parce que les politiques s'envoleraient, ils transformeraient le monde entier dans le sens de ce qu'ils veulent faire. Bon. Donc, voilà, c'est pas. Et par contre, je pense que un mec de Bercy qui est détaché au ministère des Sports, c'est un vrai déclassement. Donc voilà, moi j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps pour un autre type d'enquête, hein, enfin, qui a quand même rapport avec l'autonomie du sport d'ailleurs, mais bon, qui était sur la question de comment la politique sportive se développe au sein des relations internationales, et est-ce que les pouvoirs sportifs peuvent au fond avoir une politique étrangère qui est autonome par rapport à la politique du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une question que j'ai analysée à partir d'un dossier sur les années 50 et puis du dossier de la candidature de Paris 2008. Bon, donc j'ai interviewé un type du ministère des Sports. Donc on a parlé de choses et d'autres, on a parlé notamment des pouvoirs de l'Europe aussi en matière de sport, etc. Bon, voilà, on voit bien l'ambiguïté de la position. Donc d'un type qui, peu importe qui était le type que j'ai interviewé, mais au fond c'est un type qui aurait aimé être au ministère des Affaires étrangères, donc grande politique, et qui en fait se trouvait à traiter des questions de relations internationales au ministère des Sports. Bon. Donc là c'est pareil, au fond, il avait au ministère des Sports des contraintes externes, un peu comme les mecs des finances. Alors en même temps, on voit bien qu'il essaye très très vite de faire des bons trucs pour qu'on le ramène dans un ministère qui soit mieux. Il a envie de se débiner le ministère des Sports, dont il est capable de dire des trucs extrêmement critiques. Et en même temps, bon, voilà, il est amené à construire la politique du ministère des Sports. Donc je pense que ce qu'on dit sur Bercy, c'est un peu la même chose.
Oui, il n'y a pas de spécificité.
Ouais. Bon, par contre, ce qui est clair, c'est que je pense que Laporte, c'est quelqu'un qui n'a pas de politique des sports particulière, et qui a effectivement été là pour faire passer tout ce qui peut être privatisation, tout ce qui peut être privatisation du sport. Le sport était déjà très très privé, mais enfin, en rajouter une petite couche, quoi. Bon, voilà. C'est un type qui n'a pas tellement d'idées de politique de sport. Lui, il s'occupe de ses affaires. C'est un type qui est une espèce d'entrepreneur qui fait du fric. Voilà. Alors, il était bien placé en ce sens-là, puisque au fond, c'est un exemple pour les autres. C'est fait de votre business. Et puis, voilà. Et je crois que c'est un mec qui n'a aucune idée. Est-ce qu'on peut être un service public du sport ? Je ne sais pas d'ailleurs si le mot service public fait partie de son vocabulaire.
Oui. Non, mais une des questions que je me pose.
Il est très très différent, par exemple, de Marie-Georges Buffet, bon, indépendamment de ce que peut repenser de ce qu'elle est. Elle gère un parti en décomposition. Je veux dire, elle a rempli un rôle de ministre des Sports qui rappelait les ministres des Sports gaullistes. C'est-à-dire, elle a affirmé une politique d'espèce d'éthique contre le dopage, etc. Elle a passé des politiques qui ont effrayé tous les mecs qui étaient dans le sport. Et elle a affirmé des voilà, des trucs. Après, elle a eu du mal avec les milieux sportifs eux-mêmes, ses services du ministère, etc. Mais c'était quelqu'un qui avait une vision du sport, quoi. Bon, même s'il est arrivé trop tard et qu'à mon avis, il n'a pas pu faire une politique du sport. La porte, c'est un mec qui rentre et puis qui sortira. On s'en souviendra pas.
Voilà. Arrêtez de vous embêter là. On a déjà dit beaucoup de choses.